C'est bon? D'accord, bon, ben, on va essayer de reprendre à peu près le fil. Hein. Donc, on est parti pour en principe trois séances. La première, c'était sur la période Edo, donc, qui était la période, on va dire, féodale du Japon, si on peut faire une comparaison entre le Japon et nous au sens strict du terme, et puis, du moins, entre l'Occident. Et puis là, on passe sur un deuxième thème qui est comment on sort de cette période Edo. Vous voyez, vous rappelez cette période qui est ici, qui va en gros depuis le début du XVIIe siècle jusque justement vers 1850-1868. La date officielle, c'est 1868, c'est-à-dire le moment où un nouvel empereur arrive au pouvoir, qui va s'appeler l'empereur Meiji, ou plus précisément, le nom de l'empereur s'appelle Mutsuhito. Mais par contre, on donne toujours, si vous voulez, à son heir un nom qui est celui qu'il choisit, a priori, pour caractériser ce qu'il veut faire. Donc, ère Meiji, nous, on a traduit d'une assez mauvaise traduction qui s'appelle ère des Lumières. Pas la peine de nous faire un dessin, ils n'ont absolument aucune idée des Lumières de Rousseau et compagnie à ce moment-là, ça va de soi. Et donc, c'est des Lumières, c'est-à-dire en fait un gouvernement éclairé au sens strict du terme, donc par rapport à ce qui se passait auparavant. Pas bien.
Ouais.
Oui. Alors, est-ce que c'est mieux? Oui, d'accord. Bon, ben alors, parfait. Ça va peut-être être même plus fort. Bon, donc, oui, je disais qu'à partir de là, on a un nouvel empereur qui va arriver au pouvoir, et avec lui, donc, une nouvelle ère, et une ère de transformation du Japon. Alors, en gros, le thème des trois conférences, c'est finalement trois transformations successives. On a vu dans la première époque Edo que le Japon, c'était un pays qui se fermait, donc complètement, pratiquement, par rapport au reste du monde. Enfin, c'est jamais tout à fait complet, mais presque. Ensuite, un Japon qui va devoir faire face à un choc énorme, un traumatisme énorme, qui est l'arrivée des Occidentaux. Et il va falloir qu'il gère cette arrivée à une époque où, quand les Occidentaux arrivent, vu notre puissance par rapport à la révolution industrielle, eh bien, généralement, on colonise. Hein, c'est le moment des débuts de l'impérialisme. Et tout pays qui est touché par les Occidentaux, finalement, devient une colonie. Alors, ce qui est amusant, c'est que le Japon, lui, ne sera pas colonisé. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne sera pas colonisé? C'est déjà une première question. Et puis ensuite, deuxième chose, le Japon va faire beaucoup mieux, puisque à travers cette période particulière, il va réussir à prendre, disons, des leçons des Occidentaux, il va dire ça d'ailleurs lui-même sous cette forme-là, apprendre des Occidentaux pour mieux transformer cet apprentissage et réussir ensuite à devenir lui-même puissant, donc en gardant son indépendance et ensuite en allant plus loin, en imitant les Occidentaux, mais voire en les dépassant et en devenant à son tour un impérialiste. Donc, si vous voulez, l'ère Meiji, c'est un peu cette histoire-là, en l'espace de, on va dire, de 60 ans, parce que l'ère Meiji commence en théorie, donc avec l'empereur, je vous disais, en 1868. En réalité, elle commence bien avant. Elle commence vers 1840-1850, parce qu'il y a déjà des prémices du bouleversement qui commence à se faire sentir. Et puis, elle se termine en 1912. Bon, c'est une façon de parler, parce que c'est la mort de l'empereur. En réalité, on va dire qu'elle se termine plutôt au tournant du siècle, tout simplement, parce qu'après, on part déjà dans un autre système. Mais on en parlera quand même, parce que c'est là où le Japon devient une grande puissance militaire. Il écrase en 1905 à Tsushima la flotte russe, il écrase en même temps l'armée russe terrestre par la même occasion, et il gagne en quelque sorte ses galons de puissance militaire à l'égal des Occidentaux. Donc vous voyez, une espèce de transformation assez extraordinaire par rapport à ce qu'on pouvait penser au départ. Donc c'est ça l'ère Meiji en quelque sorte. Alors comment est-ce que ça a été possible, si vous voulez? En gros, la modernisation de cette ère, elle est prise souvent dans, on va dire, dans l'urgence, mais d'une manière extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que, on fait face à ce qui nous arrive, on essaye de gérer ce qui arrive et on essaye d'avoir une réponse la plus adéquate possible d'une certaine manière. C'est aussi une période qui marque une espèce de rattrapage. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant deux siècles, on a été complètement ou presque fermé au reste du monde. Et en quelque sorte, il y a dans la population, finalement, après une intervention de ceux qui sont les plus lettrés avant, une espèce de soif de connaissance, une espèce de soif de progression, une soif de changement, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on peut appeler ça une révolution. Ceci étant dit, c'est pas une vraie révolution au sens occidental du terme. Nous, quand on entend révolution, c'est non seulement un changement extrêmement profond, mais la plupart du temps, ça s'accompagne, disons, de violence, ça s'accompagne de toute une série d'effusions de sang plus ou moins importantes, etc. Là, pas du tout. C'est une révolte. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quand même de temps en temps des révoltes, hein, c'est évident, mais c'est une révolution qui se fait par le haut, qui est décidée, en théorie, par l'empereur, en réalité, par ceux qui l'entourent, parce que l'empereur Il a en théorie le pouvoir absolu, mais en fait c'est une potiche, ni plus ni moins. Et c'est ceux qui sont autour de lui qui dirigent essentiellement donc ce qui va se passer. Mais c'est le gouvernement qui décide, c'est le gouvernement qui donne l'impulsion, et c'est lui qui va transformer le Japon en profondeur. Donc là aussi une chose qui est tout à fait originale dans cette ère, c'est que nous avons connu la révolution industrielle. Mais cette révolution industrielle, rappelez-vous, ça a été plutôt long à se mettre en place. Il a fallu déjà, si vous voulez voir, de nouvelles classes sociales prendre de plus en plus d'importantes, comme la bourgeoisie, les marchands, les négociants. Je vous rappelle que, par exemple, une bonne partie de l'or et de l'argent d'Amérique latine du temps de la conquête espagnole, ben, ça servit d'accumulation de capital pour qu'ensuite, petit à petit, on puisse démarrer notre révolution industrielle. Bon, mais nous, cette révolution industrielle, elle s'est faite par le bas, elle s'est faite progressivement, elle a été très lente, etc. Rappelez-vous, ça commence en Angleterre vers 1750-1760, et puis, bon, ben, ensuite, ça s'étend sur tout le 19e siècle. Bon, ben, le Japon, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une révolution industrielle qui est impulsée par le haut. Et donc, si vous voulez, exactement l'inverse de ce qui s'est passé chez nous. Donc, c'est pour ça que le Japon est vraiment un cas à part, un pays très original. Donc, en plus, c'est une autre originalité, c'est que le seul pays non blanc, hein, on pourrait même presque dire non européen, parce que je vous rappelle, les États-Unis, c'est en gros des cousins, surtout au XIXe siècle. Par conséquent, donc, à partir de là, c'est vraiment le seul pays non européen qui va réussir donc le coup d'être une puissance industrielle quasiment à part entière. Bon, on verra quand même qu'en 14, c'est pas tout à fait aussi puissant que l'Angleterre, la France, etc. Mais enfin, en tout cas, il en prend le chemin assez rapidement. Donc, vous voyez un peu cette idée-là. Alors, ce qu'il faut dire aussi, rarement un peuple dans le monde aura évolué aussi vite, aussi, si vous voulez, d'une façon aussi massive. Donc, imaginez quand même l'intensité du traumatisme sur la population, sur les mentalités. Et dites-vous bien quand même que, vous savez, que dans la révolution industrielle occidentale, on a, disons, on dit communément que les premières générations, par exemple, d'ouvriers, d'employés, etc., étaient des générations sacrifiées. C'est vrai. Mais ceci étant dit, au Japon, c'est bien pire. Hein, les Japonais ont été vraiment surexploité pour arriver, si vous voulez, à faire en l'espace de quelques années cette immense puissance donc qui va ensuite dominer une partie du, ben, disons, de la première moitié du XXe siècle. Donc vous voyez par conséquent un peu cette idée-là. Alors, pour essayer de comprendre ça, ben, première chose, qu'est-ce qui s'est passé en fait au cours du demi-siècle, donc entre 1850 et 1900, qui a pu pousser le Japon à se moderniser si vite, et comment expliquer finalement le succès, hein, les succès d'un pareil changement. Alors, il y a beaucoup d'idées déjà. La première idée qui vient à l'esprit, c'est que la modernisation japonaise, et tout le monde le sait, le dit, s'effectue sous la pression des Occidentaux. Bon, c'est sûr, c'est vrai, on peut pas se tromper de ce point de vue-là. Hein, quand on regarde alors, pour le faire défiler, c'est encore... C'est celle-là ? D'accord. Voilà, bon, alors, donc, le Japon, on va avancer un petit peu. Donc, pour l'instant, simplement, je voulais vous rappeler un tout petit peu comment ça se présentait par rapport à ce qu'on avait vu, donc, la fois précédente. Vous vous souvenez à peu près comment ça fonctionnait. On appelait ça le shogunat, hein, et le shogunat, c'était en fait le pouvoir, donc, réel. Vous aviez le pouvoir sacré, donc, celui de l'empereur, qui était à Kyoto. Hein, empereur qu'on appelle Tenno, qu'on appelle aussi Mikado, hein, il a plusieurs noms, ça revient au même. Bon, et cet empereur, donc, il est entouré d'une cour, avec de grands nobles, etc., mais qui n'a aucun pouvoir. C'est simplement un symbole, c'est un personnage sacré, inviolable, etc., mais on ne lui demande pas son avis, il ne le donne jamais, de toute façon, sur la conduite de la politique, et c'est le shogun qui, lui, se trouve à Edo, l'actuel Tokyo, hein, qui a véritablement la réalité du pouvoir. Alors, il est aidé, généralement, d'une sorte de premier ministre, qu'on appelle le grand ancien, et à eux deux, ben, pour l'essentiel, aidés d'un certain nombre de conseils que vous avez en dessous, et d'un certain nombre de gouverneurs, ils arrivent à gouverner, justement, à administrer l'ensemble du Japon. Donc ça, si vous voulez, c'est la première idée donc, qu'on peut voir au départ. On reviendra après sur la pyramide qu'on avait vue la dernière fois, parce que c'est cette pyramide féodale qui va être complètement transformée par, justement, la révolution Meiji. Et je vous rappelle, ben, c'était la vision, hein, les Occidentaux, qui, jusqu'à la période Meiji, existaient au Japon, mais dans un seul port. Vous vous rappelez, c'était donc, si vous voulez, le port de Nagasaki, où il y avait juste une enclave, donc occidentale, où les marchands, de préférence hollandais, pouvaient, disons, avoir des contacts avec les Japonais. Je vous rappelle qu'ils avaient défense absolue de sortir de l'enceinte de l'île de Dejima, qui était un quartier simplement donc de Nagasaki, sous peine de mort. Et en principe, lorsque vous aviez, par exemple, un bateau qui venait s'échouer sur les côtes japonaises, normalement, lorsque vous aviez un étranger qui arrivait, eh bien, dans ce cas-là, il était aussi immédiatement exécuté. Donc, vous voyez, par conséquent, une fermeture quasi totale, à l'exception de cette espèce de petite idée ici. Autre chose aussi, il y avait quand même, malgré tout, une idée de la part du shogun de savoir un peu ce qui se passait vers l'extérieur. Et pour eux, l'idée, c'était que c'était les Hollandais qui dominaient véritablement tout ce qui se passait dans le monde occidental. À partir de là, donc, il fallait faire ce qu'on appelait en japonais des études hollandaises. Et on essayait, si vous voulez, de savoir à travers quelques livres que les Hollandais venaient, des convocations d'ambassadeurs, bon, un petit peu ce qui se passait dans le monde véritablement. Mais en ayant une vision un peu particulière, parce que, bon, à l'époque, c'était déjà l'anglais qui dominait, ça va de soi. Et en fait, pratiquement, on verra que quelquefois, quand vous avez un japonais qui va se rendre un peu à l'extérieur au début de l'ère Meiji, il va comprendre d'un seul coup que c'est pas le hollandais qui est parlé dans le monde entier, mais que c'est plutôt l'anglais ou le français éventuellement, etc. Donc ils vont se rendre compte qu'en fait ils ont été complètement à part et que ça posait quelques problèmes. Alors, si vous voulez, en gros, la modernisation japonaise donc s'effectue en théorie sous la pression des occidentaux. Pourquoi ? Ils ont forcé l'ouverture et ils ont obligé en principe les japonais à évoluer dans leur comportement, etc. Ça c'est l'idée de départ, c'est l'idée générale. Mais si vous voulez, ça colle pas. Parce que finalement, pourquoi au Japon l'arrivée des Occidentaux aurait été bénéfique, alors que par contre, elle a été destructrice en ce qui concerne, par exemple, les autres pays qui ont été touchés. La Chine en particulier, c'est juste en face. Hein. Par conséquent, les Anglais, rappelez-vous, depuis le début du 19e siècle, ils sont en Chine, ils sont en train de faire la guerre de l'opium. En 1842, ils écrasent les Chinois et ils font de la Chine, du moins une partie, un simili-protectorat. Donc, vous voyez, par conséquent, il n'y avait pas de raison que le Japon échappe au dépeçage territorial. Les seuls pays, finalement, qui restent tranquilles d'une certaine façon, si vous vous rappelez, c'est la Perse, c'est aussi le Siam, si vous voulez, l'actuelle Thaïlande. Le Siam, pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a les Anglais, de l'autre côté, il y a les Français qui commencent à arriver, donc finalement, entre les deux, ça fait une zone tampon, on n'y touche pas trop. Mais en dehors de quelques exemples très particuliers, en principe, les Occidentaux prennent, pillent, ont une économie de prédateurs, et puis la question est réglée. Alors, qu'est-ce qui fait donc que le Japon échappe à cet appétit des Occidentaux, etc. ? La plupart des chercheurs, parce qu'on a discuté pas mal, on pense que la société d'Edo, c'est-à-dire cette société que vous avez ici, eh bien, si vous voulez, qui était dominée par les shoguns, était déjà engagée dans un processus de modernisation avant l'arrivée des Occidentaux. C'est-à-dire qu'en fait, les Occidentaux n'ont pas tout fait découvrir aux Japonais, pas du tout. Il y avait un processus de modernisation qui avait commencé, mais qui était, si vous voulez, on va dire contraint, bloqué par les institutions du shogunat qui maintenaient un espèce de couvercle sur les volontés de changement donc de l'ensemble de la société japonaise. Donc c'est comme ça qu'on voit ça. Alors qu'est-ce qu'il y avait pour appuyer, qu'est-ce qu'il y a pour appuyer cette thèse véritablement ? Alors en gros, on peut considérer que la marche vers la modernité a commencé dans la période d'Edo à la fin du XVIIIe siècle. Alors qu'est-ce qu'on voit d'abord ? Eh bien c'est qu'on commence par voir ce qu'on appelle une révolution industrieuse, comme on dit au Japon, ou plutôt une révolution, comme on dirait nous, plutôt proto-industrielle. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore une vraie industrialisation, mais on n'a plus non plus exactement des manufactures, on n'a plus vraiment de l'artisanat, on est un peu dans un entre-deux, finalement. Et entre 1750, en gros, et 1800, pour l'essentiel, les grands daimyos, alors vous voyez comment c'était formé, le shogun dominait, vous aviez des daimyos, ce qu'on disait de l'intérieur, c'est ceux qui s'étaient ralliés au premier shogun qui avait emporté la bataille, si on peut dire, décisive, et puis vous aviez les daimyos de l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui s'étaient ralliés, mais contraints et forcés d'une certaine façon. Et eux, ils ont toujours eu une politique relativement indépendante. Alors ces daimyos, ils sont dans un certain nombre de fiefs que vous avez ici. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai mis ici en jaune, c'est ces grands daimyos, si vous voulez, ralliés tardivement. Donc vous avez le daimyo de Tosa, celui de Shoshu, celui de Satsuma et celui d'Izen. C'est en gros ce qu'on appelle les daimyos méridionaux, pour l'essentiel, au Japon. Et dans ces grands seigneurs, eh bien, ils sont très riches, ils possèdent un très gros domaine, vous voyez l'extension sur la carte, et donc, du coup, ils utilisent de plus en plus leurs rentes foncières pour accumuler un certain nombre, un peu de puissance, à travers des fabrications d'abord et des achats d'armes, et ensuite l'idée de commencer à produire leurs armes directement chez eux. Donc on commence à voir apparaître, à Satsuma en particulier ici, mais aussi du côté de Tosa et de Shoshu, on commence à voir apparaître des fonderies et on commence à voir apparaître des chantiers de construction d'armement. Donc là, c'est véritablement les premières usines. Alors attention, ça va pas très loin. En 1860, quand les Occidentaux, enfin en 1850, quand les Occidentaux vont arriver, on compte vraiment 37 industries sur l'ensemble du Japon, mais elles sont toutes pratiquement concentrées dans cette zone-là. Donc vous voyez que c'est relativement limité, mais quand même. Deuxième chose aussi, ce qu'il faut voir, c'est que si on revient, donc là encore, pareil à notre schéma qui est ici. Ceux qui dirigent la société, en dehors des daimyos, après, rappelez-vous, c'est les fameux samouraïs. Et ces samouraïs, bon, avec ces daimyos, mais aussi, rappelez-vous, les marchands qui sont tout en fait en bas de la pyramide, mais qui s'enrichissent fortement, eh bien, ces gens-là, si vous voulez, ils sont capables de comprendre la nécessité de changer la donne. Ils sont capables de comprendre que le Japon est en train de se bloquer. Ils ont quelques contacts avec Nagasaki. Ils se rendent compte qu'il y a des choses qui bougent et qu'eux ne bougent pas. Et par conséquent, ils sont, eux, ceux qui sont capables de mener à bien, s'ils le veulent, la révolution Meiji. Donc, si vous voulez, en plus, ils ont de l'argent. Ceux qui sont les plus riches, bon, bah, évidemment, c'est les daimyos, parce qu'ils ont, vous savez, on compte en koku, bon, mais qui vendent un prêt, donc sous forme de riz, etc. Et par conséquent, ils ont beaucoup d'argent, et ils savent pas trop quoi en faire, soit dit en passant, à part la propriété foncière, mais regardez, ils en ont déjà pas mal. Et puis, les marchands, bah, eux, ils en font beaucoup, parce que c'est eux, justement, qui, par la spéculation, ils ont un monopole du commerce, bah, ils peuvent assez facilement accumuler de l'argent aussi. Donc, ça serait un peu, entre guillemets, nos négociants et nos marchands, si vous voulez, de l'époque pré-industrielle qu'on a chez nous. Maintenant, faut pas aller trop loin, parce que c'est marchands, ils vont se diviser en deux catégories. Une grande catégorie qui, en fait, ne va rien comprendre à ce qui va se passer et qui vont passer complètement à côté de l'ère Meiji, en quelque sorte, et perdre d'une certaine façon leur statut. Et puis, une minorité qui va comprendre, au contraire, qu'il y a des choses qu'il faut faire, qu'il faut investir, etc. Et qui, eux, vont se comporter à peu près comme notre bourgeoisie à nous, si vous voulez, au début de la révolution industrielle. Donc, vous voyez, ça va être autour de ces daimyos, d'une part, surtout ceux de l'extérieur, autour de ces samouraïs, pour l'essentiel, et encore, on ne verra pas tous, qu'on pourra trouver un peu, ben, disons, à la fois les munitions en termes humaines et les munitions en termes financiers pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors, ensuite, il y a aussi une chose qui joue, c'est que si l'essentiel des paysans, qui sont la classe principale, donc de la population, sont analphabètes ou quasiment, à l'exception éventuellement des chefs de village, mais ce n'est pas garanti, bon, eh bien, ceux dont on vient de parler, c'est-à-dire les marchands, mais surtout les samouraïs, etc., les daimyos, ça forme à peu près 6% de la population, eux, ils sont cultivés. Par conséquent, ce sont des lettrés, et ces lettrés, bon, ben, ils sont capables, si vous voulez, de démarches de nature scientifique, ils sont capables de comprendre les progrès de la science, etc., ils sont capables d'assimiler rapidement, par leur intelligence et leur culture, ben, si vous voulez, ben, une nouvelle culture qu'on va leur amener. Et ils sont d'autant plus friands de cette culture que l'autre, ben, elle, ils tournent en rond, en quelque sorte, ils sont toujours sur les mêmes idées, etc. On va leur amener quelque chose de complètement différent, ben, ils sont avides, pour une partie d'entre eux, de connaître, justement, quelque chose de nouveau. Et par exemple, il y a un bouquin qui fait fureur chez les lettrés. On a édité en 1745, vous voyez, c'est quand même assez avant, donc un dictionnaire hollando-japonais. Alors, il connaît un succès absolument fantastique parce que ça montre un peu cette soif d'apprendre, etc. Et puis, rappelez-vous aussi que les samouraïs, c'est quand même des militaires. Même si, dans la période, en gros, d'Edo, rappelez-vous, on est plutôt calme et c'est un peu comme sur Richelieu, quand il interdit les duels, ben, en principe, on se bat pas, hein. Bon, il reste quand même une caste militaire et ils s'entraînent, ils sont plutôt doués dans ce domaine. Donc, les traditions militaires sont très fortes et donc, ça veut dire que ces gens-là, ils peuvent très facilement s'adapter à, disons, une civilisation de combat, à une autre structure militaire et par conséquent, éventuellement, à de différents combats et à un nouvel impérialisme. Donc, vous voyez, la société japonaise, si vous voulez, ancienne, par sa formation, finalement, elle n'est pas si mal préparée que ça à rencontrer, finalement, l'Occident. Alors, le principe, bien sûr, c'est qu'il reste au-dessus, ben, celui que vous avez tout en haut, le shogun. Alors lui, bien sûr, ben, il est mis en place du XVIIe siècle, il ne bouge pas, et il est suffisamment puissant avec, rappelez-vous, donc tous ceux qui sont autour de lui, c'est-à-dire plus précisément, si je me trompe de côté, c'est-à-dire plus précisément donc toutes ces zones, vous voyez, qui sont grisées, qui sont les domaines du shogun, et tous ceux qui sont ralliés à lui, ben, il est capable à peu près de tenir en main, ben, disons, ces espèces de vassaux turbulents qui commencent à lui poser quelques soucis. Alors, à partir de là, bien sûr, sur cet édifice vermoulu, ben, vous allez avoir la pression des Occidentaux qui vient. Alors, cette pression, elle vient d'où, d'abord? Qui sont ces Occidentaux? Alors, ces Occidentaux, ben, on va dire que c'est à peu près tout le monde. Hein, tout le monde, et on va le voir avec justement cette carte qui est ici, hein, qui est une carte qui fait à peu près toute la période, c'est-à-dire en gros depuis 1840 jusqu'à 1914, ben, à peu près, et qui montre déjà à quel point, si vous voulez, la Chine a été pénétrée de tous les côtés, d'une certaine façon. La Chine est aussi ce qu'on appelle le Tonkin, on commence à voir les Français, etc. Alors, qui sont là? Ben, regardez déjà tout au nord, parce qu'eux, ils vont avoir un rôle relativement important dans l'ère Meiji, c'est les Russes. Les Russes, si vous voulez, ils sont engagés dans ce qu'on appelle la conquête de l'Est. la conquête de l'Est, c'est-à-dire la conquête de la Sibérie, et c'est-à-dire la conquête de l'extrême-orient russe. Et regardez, ben, ils sont frontaliers du Japon. Puisqu'ils ont réussi à récupérer, par ce qu'on appelle des traités inégaux, avec la Chine, ben justement ces territoires qu'on appelle territoire de l'amour, la région amour, ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême-orient russe, comme à l'époque. Dites-vous bien que tout ça, c'était ce qu'on appelle la province maritime, c'était des provinces chinoises. Et par conséquent, les Chinois n'avaient pas les moyens de les défendre, donc les Russes, par un traité inégal, comme nous, eh bien ils ont récupéré ce qui les intéressait. Mais du jour au lendemain, ils sont arrivés à Vladivostok, ils sont arrivés aux alentours de Sakhalin, c'est-à-dire à quelques encablures du Japon. Donc les Russes, forcément, ben les Japonais, c'était leurs voisins, et un jour ou l'autre, ils allaient forcément aller un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, les Russes, déjà au nord. Ensuite, vous avez les Britanniques. Alors, les Britanniques, hein, y a de quoi faire. Ils sont essentiellement, donc, si vous voulez, dans tout ce qui concerne, donc, la Chine, aussi bien du côté de Yangtze-Kiang que du fleuve bleu, etc. Bon, c'est eux les plus actifs. Ils viennent d'être victorieux de la guerre de l'opium. L'empire mandchou est à leurs pieds, pratiquement. Donc, si vous voulez, les Britanniques, ils sont par là. Et ben, il est évident, quand vous êtes là, que le Japon, c'est quand même... on ne va pas dire un obstacle, mais enfin, en tout cas, c'est pas loin non plus. Donc, les Britanniques sont à proximité. Et puis, il y a aussi, alors ceux qu'on ne voit pas, mais il y a les Américains. Parce que les États-Unis, plus précisément, ben, ils commencent à devenir actifs. Alors, ils vont se calmer assez vite, je vous rappelle, parce qu'il va y avoir bientôt la guerre de sécession, donc ça, ça va évidemment faire une certaine éclipse. Mais en 1846, rappelez-vous, face au Mexique, ils viennent de récupérer la Californie. Ben, la Californie, c'est en face du Japon. Donc, à partir de là, quand ils sont en Californie, ben, aussi sec, ils commencent à traverser l'océan, et aussi sec, ils se retrouvent ben, pratiquement dans les encablures du Japon. Alors, pour deux raisons, parce qu'ils se disent, tiens, il y a peut-être des choses intéressantes à prendre, ben, ça sera plus tard les îles Hawaï, etc., hein, la montée, puis un peu plus tard encore, les Philippines. Mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'entre-temps, ben, il y a aussi plein de pêcheurs qui se sont installés en Californie et qui font la pêche à la baleine, la pêche aux cétacés, et ils viennent automatiquement dans les eaux japonaises. Donc il y a de plus en plus de rapports de marins américains qui disent donc qu'il y a un truc qui est pas mal là, c'est un archipel qui paraît important, il faudrait peut-être qu'on s'y intéresse finalement. Donc en fait les Américains sont assez loin, mais ils sont finalement presque les plus proches, en tout cas ceux qui ont le plus de contacts un peu, on va dire, accidentels avec donc les Japonais. Puis enfin il reste bien sûr ben, les Français, nous, qui nous baladons un peu partout avec... disons deux options. D'une part, on a envie de faire, disons, triompher la religion catholique. Par conséquent, donc, on est assez présent dans ce domaine. Et puis, surtout, de plus en plus, on s'intéresse du côté de l'Indochine. Hein. On regarde aussi du côté de la Chine du Sud. Vous voyez ici cette zone qu'on appelle Yunnan en particulier. Bon, donc, on est présent là aussi. Bon, à partir de là, un jour ou l'autre, il fallait bien qu'une de ces nations arrive la première sur les côtes. Ceux qui vont arriver les premiers, c'est les Américains. Hein. Les Américains, c'est un... Commodore, hein, l'équivalent d'un amiral saoulé donc aux États-Unis, qui s'appelle Perry et qui arrive sur les côtes japonaises avec 4 navires de guerre, des navires de guerre qui vont profondément impressionner donc les Japonais, navires de guerre de ce genre-là. Bon, donc ce qui veut dire que pour ces Japonais, ils voient arriver 4 navires de guerre, dont 2 à vapeur comme celui-ci, et qui sont restés célèbres au Japon sous le nom de bateau noir, vaisseau noir. Pourquoi ? Parce que ils crachent de la fumée, ils font un boucan infernal. Bon, et vous avez des dizaines de jonques japonaises qui sont autour, qui regardent tout ça et qui se doutent pas qu'en l'espace de quelques secondes, elles pourraient être rayées de la surface de l'eau par le bateau en question. En plus, le bateau en question, il fait, vous avez rigolé aujourd'hui par rapport au poids des bateaux, il fait 2450 tonnes. À l'époque, c'est le plus gros qui existe sur mer. Donc, vous voyez, par conséquent, il est sacrément impressionnant. Bon, le Commodore Perry arrive et, en fait, dit, c'est bien gentil, mais je voudrais voir le responsable. Et puis, surtout, on voudrait commencer à discuter, en théorie d'égal à égal, avec le responsable donc de l'administration et voir si on ne pourrait pas obtenir des ports pour pouvoir relâcher avec nos bateaux, etc. Bon, le shogun est très surpris. Bien sûr, il ne se déplace pas. Hein, il envoie un émissaire qui lui rapporte tout ça. Et l'émissaire lui dit, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? Il ne sait pas au départ, mais il dit, écoutez, laissez-nous du temps, on va réfléchir et on vous répondra. Comme le Commodore Perry n'a pas d'ordre très précis donc de la part du président américain, sauf de lui demander donc l'autorisation d'utiliser quelques ports, il dit, ok, je repars, et puis j'attends votre réponse, le shogun dit, vous aurez une réponse dans l'année, il n'y a pas de problème. En fait, il n'a pas du tout envie de donner réponse, hein, c'est clair. Et le Commodore Perry, il attend un petit peu, il attend quelques mois, puis ça va, il a compris. Donc, du coup, il va revenir en 1854 pour demander, alors, qu'en est-il véritablement ? Entre-temps, les autorités japonaises, elles sont complètement, je ne veux pas dire paniquées, mais désemparées, notamment le shogun. Parce qu'il se trouve face à cet engin qui est ici, ou à peu près, et il a très bien compris très vite, parce que le shogun, ce n'est pas un imbécile du tout, et il est entouré donc de conseillers, qui, eux, connaissent un peu plus, entre guillemets, les études hollandaises, qui disent là, on est incapable de résister à ce genre d'enjeu. On est incapable de faire quoi que ce soit. Donc, s'ils reviennent et qu'ils disent qu'il faut, qu'ils veulent quelque chose, on ne va pas pouvoir leur dire non. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le shogun, pour une fois, alors c'est un geste exceptionnel, eh bien, il prend la décision de convoquer tous les grands seigneurs du pays, donc tous les daimyos, y compris ceux qui sont plutôt turbulents, et en même temps de s'adresser à l'empereur, alors ça c'est encore plus exceptionnel, pour lui demander qu'est-ce que vous feriez, vous, en d'autres termes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça c'est exceptionnel parce que jamais personne ne s'adressait à l'empereur. Alors si vous voulez, pour lui, c'est un peu conseillé par son grand ancien côté, c'est si vous voulez un geste d'unité nationale. En gros, on est face à un danger considérable, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez, bon ben vous, vous êtes quand même une personnalité sacrée, etc., donnez-nous une idée. Donc ça part plutôt d'un bon sentiment. En fait, ça va être un ratage monumental, parce que si vous voulez, ce qui vise à souder les Japonais face à l'étranger, pour donner une réponse en tout cas commune, eh bien ça va montrer en réalité un aveu de faiblesse pour, bah, disons, la cour impériale et pour les daimyos turbulents du sud, et ça va donner le signal d'une agitation politique. Vous voyez ? Donc, par conséquent, cette demande, en fait, d'aide, en quelque sorte, de conseil, ça va se retourner contre lui. Et puis, ça va se retourner vite contre lui. Parce que, dès 1854, ben, Perry y revient, et là, il n'y a pas moyen de faire autrement, on est bien obligé, avec le shogun, de signer un traité nippo-américain. Bon, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le Commodore Perry obtient 3-4 ports dans lesquels les bateaux américains pourront relâcher. Résultat, si vous voulez, les États-Unis, en l'espace de quelques mois, ont mis un terme à plus de 2 siècles d'isolement, relatif, mais d'isolement quand même, du Japon. Bon, à partir de là, je ne vous fais pas un dessin, à côté, ça commence sérieusement à phosphorer dans les chancelleries, quoi. Comment les Américains ont commencé, ils ont eu un contact, etc., ben, qu'est-ce qu'on fait? Puis alors, en plus, ça compte un peu mieux, en 1858, 4 ans plus tard, vous voyez, ça laisse un peu de temps quand même, eh bien, un accord de commerce en bonne et due forme est signé avec Washington. Bon, ben, pas le même de faire un dessin, cette fois-ci, hein, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils pensent? Eh bien, exactement comme les mouches attirées par le miel, ils viennent tous en rang serré, en disant, vous avez donné ça aux Américains, eh bien, maintenant, vous donnez ça à nous, les Français, à nous, les Allemands, à nous, enfin, j'en passe, il y a des meilleurs. Bon, donc, résultat, si vous voulez, en l'espace de quelques mois, ben, les grandes puissances européennes obtiennent les mêmes avantages, les ports sont ouverts au commerce avec les étrangers, le shogunat perd son monopole sur les taxes, les douanes, etc. En gros, on va directement sur un schéma de ce qui s'est passé en Chine, pour l'essentiel. Et puis, mieux que ça, et c'est ça qui affole de plus en plus, justement, pas mal de Japonais, c'est que, comme en Chine, eh bien, après ce premier pas traité de commerce, eh bien, les étrangers disent, ben, c'est bien gentil, traité de commerce, pour faire du commerce, il faut qu'on s'installe dans les ports qui sont ouverts, il faut qu'on s'installe à demeure. Donc, on va s'installer sous une forme, ben, disons, de bureau, de comptoir, etc. Oui, mais ce qu'on veut, c'est que nous, votre loi japonaise, on ne la connaît pas. Et on ne veut pas la connaître. Nous, la seule loi qui compte, la seule loi dans laquelle on compte, c'est la nôtre. Par conséquent, ce qu'on veut, c'est l'exterritorialité de tout ce qui sont les établissements, si vous voulez, européens. Résultat, ben, le shogun est encore obligé d'accepter. Et donc, il donne ce qu'on appellerait finalement des concessions à la Japonaise. Vous savez, les légations, les concessions qu'on a à Shanghai, etc., ben, c'est la même chose qui se reproduit au Japon. Donc, si vous voulez, des concessions qui font que la loi japonaise ne s'applique plus sur tout le territoire. Imaginez l'humiliation. En plus, en Asie, l'humiliation, généralement, ça ne pardonne pas beaucoup. Et pire encore, les traités qui sont signés, que ce soit des traités de commerce ou d'extraterritorialité, ils n'ont aucune durée spécifiée. C'est-à-dire qu'en gros, ben, c'est petit à petit la vassalisation du Japon qui est en marche. Donc, à partir de là, bon, ben, du coup, le Japon, comme la Chine, eh bien, signe purement et simplement ce qu'on appelle des traités inégaux, exactement comme les Chinois à la même époque. Donc, voyez, par conséquent, donc là, beaucoup de Japonais commencent à se dire, mais où on va? Où est-ce que ça va aller? Notamment autour de l'empereur, autour des lettrés, etc. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, en gros, pour eux, ils résument la politique des Occidentaux à une formule très simple. La Chine d'abord, le Japon après. Donc, ils ont très vite compris que s'ils ne font rien, ben, évidemment, ils vont directement au désastre. Bon, ben, c'est clair, pour le régime shogunal, ben, lui, c'est le début de la fin. Pour le régime shogunal, ça va être terminé, parce que qu'est-ce qu'il a perdu la main, en quelque sorte? Il a demandé l'autorisation, ou du moins l'avis à l'empereur, donc il ne domine plus véritablement. Alors, c'est pas si simple que ça, les daimyos du Sud et les autres, ben, ils sont divisés sur l'attitude à tenir. En gros, la majorité des daimyos, la majorité de leurs vassaux, c'est-à-dire les samouraïs, ils se montrent hostiles à la politique d'ouverture vis-à-vis de l'Occident. C'est-à-dire qu'en gros, ils dénoncent le shogun comme étant une sorte de traître, une sorte de lâche qui accepte tout, ce que les Occidentaux lui demandent de faire. Donc là, si vous voulez, eux, c'est ce qu'on appelle les xénophobes, et ils veulent purement et simplement expulser les étrangers. Alors, si vous voulez, ils n'ont pas tout compris. Hein. C'est que eux, ils sont loin. Ils n'ont pas vu les vaisseaux noirs. Ils n'ont pas vu la puissance des Occidentaux. Donc, ils pensent vraiment que les Occidentaux, c'est un envahisseur comme d'autres. On a vu dans l'histoire du Japon. Et que par conséquent, si on s'y met, on arrivera à les virer. Ce qui est évidemment pas tout à fait le principe du jeu. Alors, ils vont essayer. Hein. Si on revient un petit peu, justement, sur ce qu'on a vu, par exemple, toujours la même carte que vous aviez au départ... celle-ci, bon, vous voyez, du côté de, d'ici, donc de Satsuma et de Kagoshima, eh ben, il y a des incidents, on teste. Alors, bon, ben, vous avez des fortins avec des canons, ben, on voit passer un bateau étranger qui est pas loin, et ben, on canarde le bateau. Bon, le bateau, il regarde, il n'est pas touché, hein, faut pas se faire d'illusions, bon, il est assez cuirassé, c'est pas un problème. Il refait un tour, puis il va prendre compte en disant qu'est-ce qu'on fait. 6 mois plus tard, il détruit tous les forts. Bon. Purement et simplement. Donc, à partir de là, les daimyos qui étaient, ou les samouraïs qui étaient xénophobes, commencent à se dire, attendez, c'est peut-être pas si simple que ça. Bon. Donc, vous voyez, on prend contact de ce système. Alors, du coup, les autres samouraïs et les autres daimyos, ben, disent, voyez, la seule solution, ben, c'est l'ouverture avec les occidentaux. Il n'y a pas de solution. Et si on veut préserver notre indépendance face à eux, eh ben, il faut discuter avec eux et surtout découvrir le secret de leur puissance. Il faut découvrir l'Occident. Il faut les étudier, il faut les apprendre. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est la révolte contre l'Occident, un Occident qui est porteur de menaces, qui déclenche la réaction qui va aboutir à la construction de Meiji, mais qui va aboutir aussi à la volonté de copier, d'imiter, d'absorber, ben, disons, ces fameux secrets techniques et scientifiques qui permettent aux Occidentaux de se balader partout dans le monde rapidement et d'y faire absolument ce qu'ils veulent. Donc, vous voyez, petit à petit, les choses commencent à changer. Donc, en gros, le contact avec l'Occident, ben, c'est donc déjà un traumatisme, et ça provoque chez les Japonais un réajustement complet, ben, disons, de leur vision du monde. D'abord, ils ont une idée, ils se faisaient une idée de la Chine, et ils se rendent compte, maintenant qu'on commence à s'ouvrir, que la Chine, elle est complètement sujette, elle est complètement vassalisée. Donc, ils se disent, mais c'est l'horreur, on veut surtout pas ça. Et ils se rendent compte aussi que le Japon, il risque de glisser vers ce même sort. Résultat, par conséquent, ils commencent vraiment à découvrir leur propre pays, ils commencent à découvrir les autres, ils commencent à se dire, ben, le monde est plus vaste qu'on pensait, et on a peut-être notre place dans ce monde-là. Donc, vous voyez, ils réfléchissent un petit peu, finalement, sur leur organisation future. En gros, c'est tout bête, mais c'est la naissance d'un sentiment national, quoi. Vous avez progressivement un sentiment national qui commence à se faire. Bah, comme d'habitude, le sentiment national se fait contre un agresseur. Donc, il se fait contre l'Occident, ça paraît évident. Bon, mais si vous voulez, la deuxième conséquence, c'est que ce sentiment national, il se fait pas seulement contre nous, il se fait aussi contre le shogun. Parce que le shogun, finalement, ben, c'est plus l'horizon final d'un Japonais. Derrière, il y a le monde entier. Et le shogun, il n'y peut plus rien. Résultat, shogun, il est inutile. Donc, faisons sauter le shogun. Vous voyez ? Donc, c'est aussi bête que ça. Donc, en même temps qu'il revoit le monde et les dimensions du monde, ben, il voit que le shogun, finalement, c'est une marionnette. C'est rien du tout. C'est un nain, entre guillemets, par rapport à l'ensemble de ce qu'on voit dans le monde. Bon, alors, à partir de là, bon, ben, du coup, bien sûr, il y a une crise qui commence à apparaître assez vite. Et puis, surtout, ben, là encore, nos samouraïs dont on parlait souvent, c'est qu'ils sont quand même en haut de la pyramide, mais leur statut social ne bouge pas. Vous êtes dans un régime immobile. Ben eux, socialement, ils sont immobiles aussi. Ils sont pas trop mal placés, mais ils ne progressent pas. S'ils sont petits samouraïs, ils resteront petits samouraïs. Leur fils restera petit samouraï. Bon, ben, ces samouraïs qui sont délétrés, qui commencent à observer le monde, ils disent, mais c'est pas possible. Notre statut social, il est vraiment inférieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ben, nous avons des idées. Nous avons des connaissances. Nous avons envie de faire quelque chose. Nous avons... Ben, Il faut que nous changions de statut. Par conséquent, à partir de là, pour eux, ben, l'idée, évidemment, c'est quoi? C'est ce qu'un samouraï explique, qui s'appelle Ryoma, je vous le dis tout simplement. Ce ne sont pas les antécédents familiaux, mais la sagesse qui fait qu'un homme est noble ou vil. C'est son intelligence qui fait qu'on doit le respecter ou mépriser. Bon, ben, à partir de là, on peut faire la Révolution française. Hein, il n'y a pas 36 solutions. Donc, si vous voulez, ça change complètement la donne. Donc, le samouraï qui est toujours resté à sa place, si vous voulez, à la pyramide en question, il n'a plus envie d'y rester. Il a des capacités, il veut que ses capacités soient reconnues. Et à partir de là, un peu comme, entre guillemets, vous vous rappelez nos bourgeois qui disaient, ben, on a tout, mais on n'a pas le pouvoir politique. Ben, on va essayer de le prendre, ce pouvoir politique, finalement. Donc, à partir de là, pour eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire sauter les anciens statuts sociaux. Cette pyramide qui est là doit disparaître absolument. Parce que c'est cette pyramide qui empêche tout progrès, et c'est cette pyramide qui emmène directement le Japon vers la vassalisation et vers la colonisation par les Occidentaux. Bon, ben, à partir de là, ça va aller assez vite. Hein. Vous avez finalement, donc vers 1868, eh bien, une réunion entre, on va dire, les anciens xénophobes qui voulaient donc se débarrasser des Occidentaux, et puis, disons, ceux qui étaient partisans de l'ouverture. Parce que finalement, les deux se rendent compte qu'ils ont les mêmes objectifs. Finalement, faire sauter cette pyramide, et puis ensuite, ben, voir avec les Occidentaux, mais ces Occidentaux étant tellement puissants, ben, il faut d'abord, avant de les affronter, eh bien, disons, faire autre chose, faire quelque chose de différent. Alors, il y a deux thèmes qui sont très simples. Premier thème, qui va être une sorte de slogan, qu'on va retrouver pratiquement dans toute l'Ermégie, faire du Japon un pays riche avec une armée forte. Vous voyez, ça ne peut pas être plus clair. C'est-à-dire un Japon qui soit capable de tenir tête enfin aux pays occidentaux, aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine militaire. Vous voyez que par conséquent, donc là, il y a déjà une ambition. Et là, ça colle bien, parce que ça va avec ceux qui veulent l'ouverture pour apprendre, pour se développer, etc. Et ça va avec les xénophobes qui disent on fait d'abord l'ouverture, on apprend, et ensuite on les vire. Donc, par conséquent, les deux peuvent se réunir, finalement, sans trop de problèmes, et, disons, faire une alliance qui soit relativement solide. Le deuxième mot qui est encore plus simple, alors, au Japon, on a toujours le terme, ça s'appelle le Wakon Yosai, et plus précisément, c'est tout simplement assimiler les technologies occidentales en maintenant un esprit et une morale japonaise. Donc, vous voyez, en d'autres termes, tout avaler, être des véritables éponges, si vous voulez, à la science, à la technologie, aux idées occidentales, mais je vais perdre de vue qu'on n'est pas occidental, qu'on est japonais, et que par conséquent, il faut modifier ça, il faut les restructurer, et ensuite, en les modifiant, être plus fort que ben, les idées d'origine. Donc ça, ça va être, si vous voulez, les deux maîtres mots qui vont véritablement donc faire la révolution Meiji. Donc c'est ces gens, c'est ces daimyos du Sud, c'est ces samouraïs qui veulent un peu faire sauter tout ça, qui vont être les grands acteurs de la révolution Meiji. En fait, c'est eux qui vont tirer les ficelles du pouvoir, pour l'essentiel. C'est eux qui, véritablement, donc, vont gagner l'estime de la plupart de leurs contemporains. Et puis, l'empereur, lui, il sera capable de suivre uniquement. Maintenant, vous allez me dire, l'empereur, on ne le voit plus, lui. Alors, où il va sortir, cet empereur? Vous voyez, il est quand même là-bas en haut à gauche. Hein, il y a la noblesse de cour, etc. Et il est quand même par là. Du coup, il y a une idée qui commence à surgir. C'est que la cour est la maison impériale, c'est-à-dire la noblesse de cour qu'on a vu ici, c'est-à-dire en gros 150 familles. Eh bien, en fait, pour arriver à faire avaler à l'ensemble du peuple japonais cette modification de structure qui va être radicale, cette modification de société, cette modification de politique dans tous les domaines, eh bien, la seule solution, c'est d'associer l'empereur, justement, qui est une figure inviolable, sacrée, etc., pour le peuple et pour tout le monde, associer l'empereur à cette, cette œuvre de reconstitution du Japon. Donc, résultat, d'un seul coup, la cour et la maison impériale, l'empereur, semblent les seuls à pouvoir sauver la situation. Vous voyez ? Donc, en gros, ceux qui vont sauver la situation, vous avez compris, c'est les samouraïs et les daimyos, mais ils vont se mettre derrière le paravent de l'empereur, qui, en gros, va leur permettre de faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc, à partir de là, l'empereur apparaît comme quoi ? Comme un sauveur suprême. C'est vraiment le recours essentiel. Et en même temps, c'est ça qui est génial, c'est que c'est le sauveur suprême, c'est un personnage sacré, donc il a, la bénédiction divine dès le départ, et en plus, il est le garant de l'unité nationale. Et bien, ce qu'il dira de faire, même s'il y a des compromissions avec les étrangers, c'est pas un problème, dans la mesure où il est le garant de l'unité nationale, eh bien, on le fera quand même, parce qu'il a certainement raison, parce qu'il est inspiré par Dieu, etc. Donc, vous voyez, en gros, l'intérêt de l'empereur. Mais c'est un peu une potiche, quoi. On l'utilise parce que c'est lui qui peut, si vous voulez, faire cette espèce de catalyseur qui va permettre finalement de réunir tout le monde et d'éviter d'avoir en face trop de gens qui contesteraient, des gens qui diraient l'ancien régime, moi je ne veux pas le changer, etc. Donc, à partir de là, c'est le seul, si vous voulez, qui peut réunifier le pays en transformant les structures sociales véritablement. À partir de là, bien sûr, l'idée aussi, c'est de mettre en place quelque chose qui soit assez autoritaire, et quelque chose qui fasse marcher en quelque sorte le pays, disons, ou pas. Par conséquent, très vite, on dit, l'empereur, il devrait être au centre ou à la tête d'une monarchie centralisée, et c'est pas difficile. Sur la période dans l'histoire du Japon, on a déjà connu des monarchies centralisées. Par conséquent, il suffit de faire un rappel historique en disant, en réalité, l'époque d'Edo a été une espèce d'époque de, bah, disons, a estompé une mise entre parenthèses de la puissance de l'empereur normalement. Eh bien, il faut en même temps qu'on restaure un nouveau Japon, qu'on restaure ce qui se passait autrefois, la puissance de l'empereur, et comme ça, le Japon retrouvera à la fois, bah, disons, son histoire, sa richesse, son prestige et son honneur, quoi, ni plus ni moins. Donc voilà pourquoi l'empereur, bon, bah, si vous voulez, devient fondamental. Donc la cour impériale, qui était hors jeu depuis plusieurs siècles, elle redevient du jour au lendemain le centre politique du Japon. Vous voyez comment les choses se passent, c'est assez extraordinaire. Et la meilleure chose à voir, c'est un symbole extraordinaire là aussi, la cour et l'empereur commencent à s'exprimer. Depuis des siècles, ils ne disaient rien parce qu'ils n'avaient le droit de rien dire, sauf en matière religieuse. Et bien là, ils commencent à s'exprimer et l'empereur commence à donner des idées sur ce qui se passe en Occident, sur les études hollandaises, etc. Et surtout, et ben, les nobles et l'empereur se montrent de plus en plus critiques vis-à-vis du shogun. Vous voyez comment les choses se passent finalement. Et le mieux, c'est on voit le changement. Ben, en une dizaine d'années, les rapports de force sont inversés. Le shogun est obligé de se rendre à Kyoto lorsqu'il prend maintenant des décisions politiques pour obtenir l'assentiment de l'empereur. Vous voyez, comme quoi le pouvoir s'est complètement inversé. Hein, le shogun va demander l'autorisation, plutôt l'imprimatur, en quelque sorte, donc, si vous voulez, donc de l'empereur. Alors bon, ben, à partir de là, c'est clair. Le shogun s'est devenu finalement un faible entouré de conseillers indécis, tandis que l'empereur, lui, c'est le symbole de l'unité, entouré de daimyos et de jeunes samouraïs qui sont particulièrement déterminés. Vous imaginez bien que ça risque pas de durer longtemps, cette espèce de bipolarisation de la vie japonaise. Bon, par conséquent, à partir de là, ben, ces jeunes et ces daimyos, ils vont former ben, ce qu'on appelle tout simplement, on a retrouvé le mot il n'y a pas bien longtemps pour la Russie, ce qu'on va appeler les oligarques, parce qu'ils vont former une oligarchie. Finalement, vous avez l'empereur qui est la tête politique, mais qui n'a pas vraiment de pouvoir, qui va être entièrement encerclé, dominé par ces jeunes, et ils vont se partager tous les pouvoirs à quelques-uns, d'où le terme de l'oligarchie automatique. Vous voyez ? Et donc, c'est ces oligarques qui vont, en fait, faire, à travers la personnalité de l'empereur, bah, véritablement, donc, la nouvelle politique. Alors, le coup de peau, si on peut dire, ce qui facilite tout, il y a deux événements complètement accidentels et fortuits. En 1866, vous avez la mort consécutive du shogun et la mort de l'empereur régnant, qui est l'empereur Kōmei, et un empereur qui était intéressant, mais un empereur vieux, si vous voulez, et donc qui avait du mal quand même à se dégager, en quelque sorte, des vieilles idées de l'empereur qui ne bougeait pas, qui était plutôt religieux et pas autre chose. Bon ben, à partir de là, bon ben, les choses vont changer, parce que le nouvel empereur, ben, il s'appelle Mutsuhito. Quand il arrive au pouvoir, il a 15 ans. Bon ben, 15 ans à partir de là, inutile de dire qu'il n'a pas forcément des grandes idées par lui-même, mais dites donc qu'il y en a d'autres qui vont s'en charger de lui en donner. Hein. Par conséquent, donc, les jeunes samouraïs, etc., vont lui faire en gros son éducation, et à travers donc, sa personne, eh ben, ils vont faire absolument ce qu'ils vont vouloir. Quant au nouveau shogun qui, lui, arrive derrière, eh ben, ce shogun, on va le voir après. Alors voilà le shogun en question, il s'appelle Yoshinobu, c'est le dernier. Hein. Et ben, lui, ben, dès le départ, il se rend compte que les choses ont bien changé, et il commence par dire, oui, on pourrait peut-être envisager un certain nombre de réformes. Parti sur ces bases, il ne va pas faire long feu. Bon. Et puis, en face, ben, vous avez l'empereur, il a 15 ans. Alors, c'est l'empereur classique, quoi. L'empereur, le Japon, et l'empereur au Japon, vous allez le voir pendant tout son règne, et même lorsque Hirohito va prendre le pouvoir bien plus tard, dans les années 30, enfin 26 plus précisément, eh bien, lorsqu'il aura exactement le même habit. C'est-à-dire que l'empereur concentre à la fois la tradition et la modernité. La tradition, c'est ça. La suivante, la modernité, c'est ça. C'est le même avec l'habit de militaire européen, etc. Donc, si vous voulez, l'empereur, ça va être cette espèce de double image. Donc, à lui tout seul, il symbolise à la fois, ben, justement, le Wakon Yōzai, c'est-à-dire la tradition, la morale japonaise, et en même temps, l'acceptation, donc, de ce qui est la nouveauté occidentale, etc. Vous voyez, donc, pourquoi l'empereur, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, on est en 1867, maintenant, l'empereur est mort en 1866, le shogun aussi, l'autre est au pouvoir. Les jeunes, ils commencent à en avoir ras-le-bol, quoi. Ça traîne trop. Donc, Yoshinobu, le shogun, dit « Oui, je vais peut-être abandonner mes pouvoirs, je ne vais pas, etc. » Bon, ben, ils en ont assez. En 1868, eh bien, les jeunes samouraïs envahissent purement et simplement, bon, gentiment, hein, mais ils envahissent purement et simplement, donc, le palais de l'empereur. Et ils vont voir l'empereur en lui disant, le nez dans la poussière, le front contre la terre comme d'habitude, il faut que vous preniez les choses en main, il faut que vous éliminiez donc le shogun une fois pour toutes. Bah, c'est une sorte de coup d'État, hein, ni plus ni moins, qu'ils font, parce que jamais le petit à 15 ans n'aurait fait ça. Bon, et ben ça marche. Hein. Le nouvel empereur Mutsueto, ben, il accepte, et aussi c'est qu'il oblige le shogun à quitter définitivement le pouvoir. C'est plus question de rendre son pouvoir, de faire des réformes, il part. Purement et simplement. Alors on est gentil, hein, il deviendra quand même, ça se passe pas trop mal, il l'accepte assez vite, il deviendra un prince, hein, bon, etc. Mais plus personne n'entendra plus jamais parler de lui. Bon, il y en a quand même parmi les, on va dire, les suivants, les disciples, les daimyos fidèles au shogun, qui disent c'est pas possible, ils réunissent une armée et ils se font écraser, donc par les autres qui avaient bien préparé leur coup, etc. Donc en 1868, c'est fait, hein, le shogun a disparu, on a une nouvelle ère qui peut commencer en même temps que le règne de ce nouvel empereur. Maintenant, dernière chose, il faut un symbole, il faut un symbole du changement. Eh bien, le symbole, il est simple, c'est le fait, si vous voulez, de partir, de changer complètement donc, de situation, hein, et de partir à partir de là, donc vous voyez, de changer la capitale, vous avez en rouge la capitale impériale, vous vous rappelez, Edo, c'était la capitale du shogun, eh bien, pour bien montrer que tout ça a changé, la capitale impériale est abandonnée, et on se déplace à Edo. Donc, dorénavant, l'empereur va résider à Edo, et pour bien montrer qu'on a changé, eh bien, on rebaptise Edo, qui devient Tokyo, c'est-à-dire la capitale de l'Est, histoire de bien montrer qu'on ne confond pas les torchons et les serviettes. Hein. Il y a la capitale religieuse qui reste impressionnante, mais maintenant, l'empereur, il est là où se fait l'histoire, là où se fait l'économie, etc., là où doivent se prendre les grandes décisions. Donc, on change complètement la donne de ce point de vue-là. Bon, ben, les jeunes samouraïs radicaux, les daimyos, ben, ils peuvent commencer leur boulot, hein, c'est clair. Donc voilà en gros comment, si vous voulez, on est passé de l'ancien régime à quelque chose de nouveau. Alors maintenant, il y a quand même une dernière chose, question subsidiaire. Pourquoi le Japon a-t-il eu quand même la chance de se développer? En gros, pourquoi les Européens ont-ils laissé faire le Japon? Parce qu'après tout, avec la puissance de feu qu'ils avaient, et puis les différents ports qui étaient ouverts, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient du Japon, et sans aucun problème, bah, si vous voulez, réussir à prendre donc essentiellement tout ce qui les intéressait. Vous voyez ces diverses photos. Bon, ça serait pas mal quand même que j'ai plutôt le... Donc, ah oui, mais c'est votre truc que j'ai là. Bon, ça c'est moins drôle, parce que j'aimerais... Bon, bah tant pis, non, mais laissez courir. Ça... Ah si, ah non, ça y est, j'ai trouvé. Ça va être bon. Donc, ici, voilà, donc, oui. Ah, d'accord, oui, donc. Oui, c'est, d'accord. Oui, oui, mais c'est pas vraiment cette cible que je voudrais. Bon, d'accord. Bon, ben, écoutez, tant pis, on revient à l'autre, c'est plus simple. Bon, donc, ce que je voulais vous montrer simplement, voilà, cette histoire, donc, de la carte du Japon à ce moment-là. Alors, voyez, ce que vous avez ici, c'est toutes les villes qui ont été ouvertes aux étrangers, etc., donc à ce moment-là. Bon, alors, pourquoi donc le Japon a-t-il eu la chance de se développer? C'est un concours de circonstances assez extraordinaire. D'abord, il y a un pays qui est plus puissant que tous les autres, c'est la Grande-Bretagne. Eh bien, la Grande-Bretagne, c'est celle qui, à ce moment-là, profite le plus du Japon. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est la plus proche, c'est celle qui est la plus implantée en Chine, et par conséquent, c'est celle qui peut le plus vite, disons, améliorer son commerce avec le Japon. Résultat, si vous voulez, sa présence en Chine fait que, bon, ben, la Grande-Bretagne se dit, il y a des quantités d'affaires à faire. Et je vous rappelle, vous rappelez ce qu'on a dit l'année dernière quand on a parlé de l'impérialisme britannique, les Anglais ne tiennent pas absolument à gagner, à conquérir par la force militaire. Si ça peut leur coûter le moins cher possible, c'est-à-dire du commerce, en ayant tous les avantages, sans les inconvénients d'une présence militaire massive, ils sont tout de suite d'accord pour prendre. Ben, c'est exactement ce qui va se passer ici. En plus, ils ont un coup de peau là aussi, ou plutôt une préscience tout à fait intéressante. Il y avait les Français et les Anglais, chacun jouait sur un cheval. C'est-à-dire qu'ils ont bien vu que ça se passait mal au Japon. Les Français ont misé sur le shogun, les Anglais ont misé sur l'empereur. Ben, qui est-ce qui a gagné? C'est les Anglais. Bon, résultat, à partir de là, nous, Français, ben, on perd la mise, et par contre, les Anglais, ben, eux, ils la raflent. Résultat, à partir de là, ben, ils vont pouvoir en profiter davantage. Donc, pour eux, le Japon tel qu'il est, il n'y a pas besoin de le coloniser, c'est très bien. Puis, à la limite, les autres pays, ben, ma foi, bon, il n'y a pas de raison qu'ils le colonisent non plus. Donc, l'Angleterre, dès le départ, va avoir un a priori favorable sur l'expérience japonaise. Ça durera pas mal de temps, et là, les Japonais peuvent franchement dire merci dans leur montée en puissance par rapport à la puissance britannique. Bon, ensuite, ils s'en mordront un peu les doigts, mais ça sera beaucoup plus tard, bien sûr. Deuxième chose aussi, s'ils arrivent à s'en sortir, c'est à cause des rivalités entre les puissances coloniales. Les puissances coloniales, elles sont partout. Bon, si on reprend, si vous voulez, la carte qu'on a vue tout à l'heure, donc qui était celle où vous avez justement celle-ci, où vous avez toutes les possessions européennes, etc. Bon, ben, dites-vous bien qu'à l'époque, il y a d'exécrables relations aux alentours des années 1850 entre la Grande-Bretagne et la France d'un côté et la Russie, c'est la guerre de Crimée. Bon, ben, par conséquent, on ne s'entend pas tellement bien. Donc, c'est difficile de faire une alliance pour exploiter le Japon. Or, rappelez-vous aussi, si vous voulez, qu'aucune autre puissance ne permettrait à une autre, ben, disons, de dominer totalement le Japon, parce que ça veut dire qu'elle se ferait éjecter, etc. Ça veut dire qu'on aurait un conflit donc, entre colonisateurs. Bon, la terre est vaste à ce moment-là. Hein. On n'a pas encore fait le grand impérialisme. L'Afrique, il y a encore de la place. Bon, on n'a pas fait le congrès de Berlin. Le congrès de Berlin, c'est 1881. Bon, par conséquent, donc, si vous voulez, l'impérialisme, il est encore en train de se faire. On ne va quand même pas se taper dessus pour un petit pays qui n'est franchement pas stratégique, et puis qui, franchement, est peu puissant, et puis il est petit par rapport à la Chine. Bon, bref, est-ce que ça vaut le coup de se taper dessus pour ça? La réponse est claire, c'est non. Donc, par conséquent, bon, ben, il n'y a pas de raison qu'une puissance l'emporte. Troisième chose aussi, ben, c'est que les principaux colonisateurs, nous et les autres, ben, on est occupés ailleurs. Et le Japon, petit territoire, n'est pas du tout au centre de leurs préoccupations. C'est ça la grande chance du Japon. La France, rappelez-vous, dans ces années-là, c'est Napoléon III, hein, pour l'essentiel. Bon, 52, 70, etc. Il y a l'expédition du Mexique, autant dire qu'un joli fiasco, mais en attendant, ça nous occupe. Et puis après, rappelez-vous, 1870, c'est le désastre contre la Prusse. Donc inutile de dire que la France, dans ce cas-là, ça fait une certaine éclipse. Donc la France, à partir de là, elle n'est plus tellement dans le jeu. Donc le Japon, elle le voit franchement, mais alors très très loin. Bon. Les États-Unis, bah, 1860-65, ça s'appelle la guerre de sécession. Bon, bah, la guerre de sécession, ça les occupe pas mal aussi. Puis après, les séquelles de la guerre de sécession. En même temps, rappelez-vous, il faut aller jusqu'en 1890 pour terminer la conquête de l'Ouest. C'est le moment où on fait l'Union Pacifique, le Central Pacifique. Bon, bref, bah, les Américains, c'est pareil, le Japon, c'est vrai que c'est en face, mais quand même. Quant aux Russes, ah, les Russes, ils sont un peu moins puissants que les autres. Hein. Je vous rappelle quand même, du point de vue révolution industrielle, ils ont un certain retard. Et puis, ben, un petit problème, c'est qu'eux, ils sont plutôt préoccupés par les Balkans. Vous savez, l'accès aux mers chaudes. Les Balkans, les détroits de l'Empire ottoman. Et puis, ben, regardez sur la carte, ils ont du boulot aussi dans leur conquête de l'Est. Et puis, pour aménager le territoire de l'extrême-orient russe, ils viennent de le récupérer. Ben, faut bien qu'ils l'avalent, faut qu'ils le digèrent, plus précisément. Bon, ben, donc, ils ont aussi pas mal d'autres choses à faire. Donc, vous voyez, du coup, le Japon intéresse peu de monde. Quatrième raison, l'impérialisme européen, je vous le disais, on n'est pas en 1881-82. L'impérialisme européen, là, il est plus commercial que véritablement agressif. C'est après le congrès de Berlin, et essentiellement d'ailleurs sous la pression des Allemands, rappelez-vous qu'il a loupé le coche, hein, Bismarck a dit, bon ben, aux Français, colonisez tout ce que vous voulez, pendant ce temps-là, vous ne casserez pas les pieds, et vous ne voudrez pas récupérer de l'Alsace-Lorraine. Bon, par conséquent, nous, on s'en fiche, on va d'abord faire l'union du pan-germanisme, et puis quand il se réveille, il s'aperçoit qu'il a loupé le coche, et que pratiquement l'essentiel du monde est colonisé. Alors à partir de là, l'impérialisme allemand devient agressif, d'où le congrès de Berlin pour dire, allez, on se partage l'Afrique, et puis le reste, tant qu'à faire. Et à partir de là, chacun décide d'avoir le plus de morceaux possible. Mais à cette époque, c'est pas le cas. À cette époque, par conséquent, le Japon, là encore, bah, il a de la chance, on n'est pas aussi agressif qu'après. Et puis enfin, dernière chose, bah, il y a une surprise étonnante, bah, c'est que le Japon, il étonne. Parce que d'abord, par rapport à la Chine, par rapport aux autres pays que les Occidentaux ont vus, eh ben, il est différent. En gros, pour les, c'est l'expression d'ailleurs des Français et des Anglais, c'est assez marrant, ils disent qu'il est semi-civilisé économiquement. Vous voyez ? Donc, c'est pas un peu les pas civilisés du tout économiquement que sont les Chinois, etc. Donc, ils sont semi-civilisés. Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent comprendre notre système. C'est franchement étonnant. Ben, pourquoi ne pas tenter de laisser faire une expérience assez originale, finalement? Parce que, après tout, un développement d'un pays comme le Japon, ben, c'est pas dangereux. C'est un petit pays. Il va pas tellement nous casser les pieds. Et puis surtout, si ce pays se met à avoir une bonne recette et une certaine puissance, ça va devenir un partenaire économique, on ne parle pas de partenaire militaire, hein, mais un partenaire économique avec qui on fera peut-être davantage d'argent, finalement, qu'avec, bah, disons, un territoire considéré comme barbare, économiquement et industriellement. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui fait que, finalement, le Japon, il a le pot, donc, de, bah, disons, de qu'on le laisse faire et qu'on le laisse vivre sa vie d'une certaine manière. Donc, vous voyez, quand même, quelque chose d'assez original. Alors, maintenant, bon, bien sûr, vous avez compris, j'étais assez long, mais je voulais vraiment vous montrer pourquoi le Japon, c'est vraiment un cas à part, quoi. Alors, maintenant, bah, c'est plus classique, hein. Bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi, la révolution Meiji elle-même, quelles sont les réformes? Alors, les réformes, bah, il y en a des quantités. Alors, d'abord, si vous voulez, dans cette réforme-là, vous avez un texte de l'empereur, parce que je vous rappelle, c'est toujours l'empereur qui domine tout ça. Ah ben oui, ben là, donc il n'est pas dessus. Donc ça, c'est un texte en Word. Bon, ben écoutez, ça fait... Ouais. Ben, je vous laisse faire. Hein. Donc, c'est un texte, si vous voulez, qui, en gros, va indiquer, dès le départ, ce que l'empereur veut faire. Pas peine de faire un dessin, c'est pas lui qui l'a rédigé, même si c'est un rescrit impérial. Alors, un rescrit impérial, ça passe pas devant un parlement de voix quoi que ce soit, ça devient une loi immédiatement, puisque c'est la parole sacrée, etc. Bon. Donc, dans un premier rescrit impérial, non, c'est sur...
C'est
en garde, c'est l'autre, oui. Ça doit être ça. Ça, c'est pour l'économiste. On permettra de... Rebrille sur l'air. L'UR, là, il doit être dessus. Et il doit y avoir, voilà, serment des cinq articles. C'est ça. Vous l'ouvrez et ça sera très bien. Donc, vous verrez donc comme ça un petit peu ce qu'on entend par là. Voilà le serment des cinq articles, vous voyez. Donc, ça, c'est de la main même de l'empereur. Et voilà ce qu'il dit. Vous voyez, toutes les questions relatives à la gestion des affaires d'État seront déterminées par la discussion publique née d'une convocation d'assemblée représentative. Dès le départ, il dit qu'en fait, il va laisser s'exprimer le peuple. Ça, franchement, c'est plutôt original. Bon, ça veut dire aussi qu'on copie un peu sur la démocratie occidentale. Attendez, il ne faudra pas aller trop loin, parce qu'on est quand même un monarque inviolable, sacré, il ne faudra quand même pas trop exagérer. Mais on veut s'appuyer sur le peuple. Deuxième chose après, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui est intéressant, nous devons en terminer avec les pratiques pernicieuses et fonder nos actions sur le principe de la loi internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les lois qui sont en vigueur en Occident. Et les lois qui règlent aussi bien la société que l'économie, etc. Et puis, plus important, voyez, nous devons rechercher la connaissance à travers le monde et l'utiliser pour renforcer les fondations de notre nation en tant qu'empire. Donc là, de ce point de vue-là, c'est très clair. Il insiste bien pour dire véritablement donc, que le Japon doit complètement changer. Donc vous voyez, j'ai l'intention de mettre en œuvre une réforme d'une ampleur sans précédent, etc., etc. Et bon, mais unissez vos cœurs sans ménager vos efforts, ça c'est sûr, ils vont avoir du boulot. Hein. Donc par conséquent, donc, il va falloir vraiment inventer, aller un petit peu plus loin. Alors, on peut revenir maintenant sur l'autre, on a plus besoin de celui-ci. Bon, donc du coup, on peut dire qu'il y a un déluge de réformes. D'abord, première chose, ce qu'il faut faire sauter, vous avez compris, c'est lancer alors début R à nouveau. Donc c'est l'ancien, si vous voulez, système féodal qui doit sauter. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, le shogun est disparu. L'empereur, il commence par confisquer tous les domaines du shogun. Vous vous rappelez, sur la carte qu'on avait vue, les domaines qui sont allés en... Voilà, celle-ci. Les domaines qui sont en gris, vous voyez, foncé, d'un seul coup, ça appartient à l'empereur, directement, donc à l'État, si vous voulez. Et puis, il y a tout le reste. Il y a tous les daimyos, etc. Et rappelez-vous, les daimyos, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, ils veulent que ça change. Donc, leur fief, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Les daimyos qui sont à côté de lui, c'est-à-dire Tosa, Shoshu, enfin, toujours les mêmes. Bon, eh bien, ils vont voir l'empereur en disant, ben, écoutez, nous remettons nos fiefs entre vos mains. C'est-à-dire qu'en gros, on vous rend ce que l'un de vos prédécesseurs, entre guillemets, il y a des siècles, qui nous a donné. Et évidemment, donc, c'est qu'une partie. Mais les autres, daimyos, ben, ils n'ont pas le choix. Si les daimyos les plus puissants redonnent leurs fiefs, ben, ils ne peuvent pas faire autrement que d'en faire autant. Résultat, par conséquent, très vite, en 1869, tous les fiefs de l'ancien régime sont purement et simplement supprimés. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un trait de plume ou presque, la société féodale disparaît. Vous voyez, par conséquent, que c'est quand même assez extraordinaire, disons, de ce point de vue-là. Bon, ça veut dire qu'en quelques semaines, bah, le Japon se détache d'un morcellement multiséculaire, donc véritablement. Deuxième chose, maintenant, qu'il faut voir, qu'est-ce qu'on fait de ces terres? Eh bien, ces terres, elles sont distribuées, en fait, aux paysans qui les cultivent et qui deviennent propriétaires. On invente la propriété privée au Japon en 1872. Donc, vous voyez, par conséquent, la vitesse aussi à laquelle ça change. Donc, nos paysans qui n'avaient rien, ou à peu près qui n'avaient aucun droit, ils deviennent propriétaires, il y a un cadastre, enfin, bon, rapide, hein, qu'on va faire, on va dire, ben, voilà la limite, etc., que vous faites, et tout ça. Bon, ça change, donc, pas mal de choses. Attendez, il y aura en échange une contrepartie, un impôt à l'État. 3%, ça paraît rien, c'est extrêmement lourd, on en parlera après. Bon. Ensuite, pour terminer, les daimyos, ils n'ont plus rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, les daimyos, il faut bien les récompenser, il faut bien les rattacher. Alors, on leur dit, ben, comme vous nous avez fait ce cadeau, eh bien, on va vous donner une indemnité qui correspondra, en gros, au dixième de votre ancien revenu. Ça sera ce que vous aurez tous les ans comme salaire, le dixième de votre ancien revenu de votre fief. Deuxième chose après, on va vous donner aussi des indemnités supplémentaires importantes pour l'effort que vous avez fait, sous forme d'argent, etc., de bons d'État et autres. Et en gros, qu'est-ce qu'on va leur demander? On va leur dire, en même temps, on vous oblige, une fois de plus, à résider à Tokyo, donc dans la capitale. Et on va leur dire, on attend de vous que vous serviez le nouveau régime. Par conséquent, veuillez devenir nos hauts fonctionnaires. Veuillez devenir nos hauts administrateurs, etc. Et vous serez récompensés. Et qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Eh bien, cet argent, utilisez-le dans la nouvelle économie. Donc, ces indemnités, investissez-les. Investissez-les pour créer, ben, disons, les premières infrastructures routières, enfin, les premières infrastructures ferrées, les infrastructures portuaires, créer des premières sociétés, etc. C'est-à-dire, si vous voulez, on leur dit, ben, vous voyez, on vous donne un capital, ben, maintenant, voilà, devenez des capitalistes à l'occidental, d'une certaine manière. Donc, vous voyez que tout ça, bon, c'est quand même quelque chose d'assez original au départ. En même temps, on a dit que c'était des administrateurs, parce que tous, ils n'ont pas la fibre capitaliste. Hein. Il y en a qui ne comprennent rien, hein, c'est clair. Bon, ceux qui sont au sud, par contre, ils comprennent ça, ils ont compris le système. Mais les autres, ben, on va les transformer en administrateurs. C'est à ce moment-là qu'on crée ce qu'on appelle les préfectures. Aujourd'hui, c'est toujours les mêmes. Aujourd'hui, ça s'appelle les KEN, K-E-N. Et ces préfectures, bon, elles arrivent tout de suite et on met les anciens démios à leur tête. Ils sont très contents, ils ont des quantités de possibilités de s'enrichir, etc. Donc, ils vont être fidèles et tout à fait satisfaits de leur sort. Deuxième chose, il reste les samouraïs. Les samouraïs, ils sont plus nombreux. Hein. Alors, eux, ils sont moins bien traités. Ça, c'est clair, c'est pas tout à fait l'idéal de ce point de vue-là. Alors, eux, ils vont recevoir un capital en tout et pour tout, un capital en rente. Et pas la peine de faire un dessin. Avec ce qui va se passer, il y aura assez vite une certaine inflation, etc. Donc, s'ils gardent leur capital ou s'ils ne savent pas le gérer, ils vont tout perdre. Par conséquent, en gros, on va les conseiller et on va leur dire que pour eux, ils n'ont pas d'autre solution que de changer de statut. Que samouraï, c'est fini, ça n'existera plus. Alors, pour ça, c'est très simple. En 1873, l'empereur, il crée une armée. Je vous rappelle, le samouraï, son boulot, c'était l'armée. Or, en 1873, on crée une armée où n'importe qui peut rentrer dedans. Que ça soit le paysan, que ça soit le marchand, etc. Donc le samouraï, il perd, disons, sa raison d'être, d'une certaine façon. Et puis, en même temps, en 1867, alors ça c'est le sommet, on lui interdit le port des deux sabres. Vous savez, les fameux sabres du samouraï, ça, pour eux, c'est dramatique. Donc, se dire qu'ils ont le droit de les porter, mais chez eux, dans le privé. Pour tout ce qui est de l'extérieur, c'est terminé. Alors ça, c'est un symbole énorme, donc histoire de leur dire, ben, ma foi, il faut y aller. Ça veut dire que là, en 3 à 4 ans, c'est la fin des samouraïs au sens strict du terme. Alors bien sûr, ils risquent de se révolter, donc il ne faut pas qu'ils se révoltent. Alors les jeunes samouraïs sont autour, ben, eux, on est tranquille, mais il faut qu'ils arrivent à faire comprendre aux autres qu'ils ne doivent pas se révolter. Donc on leur dit, mais attendez, on a besoin de vous. On a besoin de vous pourquoi? Pour être les futurs cadres de la nouvelle armée qu'on est en train de constituer. Donc il va falloir vous former à l'occidental, etc., mais on a besoin de vous. Et puis on a besoin de vous pour être des fonctionnaires moyens. On a besoin de vous pour être des administrateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut les embaucher, on peut aussi, on leur dit, ben, on a besoin de vous également. Bah, comme de futurs marchands, comme de futurs capitalistes qui vont créer peut-être leur petite entreprise en fonction d'eux, etc. Donc, si vous voulez, on leur explique qu'ils ont une place possible pourvu qu'ils sachent la saisir. Alors là, ça va être évidemment un peu plus difficile. Vous allez avoir à peu près un tiers, si vous voulez, un quart à un tiers des samouraïs qui va véritablement, on va dire, bah, disons, se glisser dans la nouvelle société véritablement. Puis les autres, par contre, ils vont complètement louper le coche. Et alors, ils vont être complètement déclassés. Parce que du jour au lendemain, ils vont devenir des Japonais normaux. Et par conséquent, pour eux, ça va être très dur. Donc, il ne faudra pas vous faire d'illusions. En 1876, ben, vous avez peut-être vu un film là, avec, je ne sais plus comment il s'appelle déjà, là, c'est Le Dernier Samouraï. Hein, voilà. Ben, c'est exactement ça. Bon, alors, bon, c'est romancé, hein, ça va de soi. Mais Le Dernier Samouraï, c'est ça. Ces samouraïs, en 1876-77, ils se réunissent. Et au nom de l'empereur, en disant « Vous êtes entouré de mauvais conseillers, on va rétablir un peu, vous savez, le coup de Louis XVI, hein, c'est jamais de sa faute, mais c'est la faute des mauvais conseillers, ben, c'est pareil. Bon, ben là, c'est « On va vous débarrasser de vos mauvais conseillers, et par conséquent, tout reviendra comme avant. » Alors, le symbole, c'est qu'en 1876, ils sont écrasés par l'armée nouvelle. Vous voyez ? Celle qui a des canons, celle qui a des fusils, parce que les autres, ils continuent effectivement à se battre avec des sabres, et etc. Bon, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. C'est le champ du cygne des samouraïs. Et effectivement, après, ça sera terminé. Alors, ceci étant dit, il y aura une tradition après, parce que ces gens qui ont été écrasés, ben, ils sont quand même plus que déçus. Ils sont amers, frustrés, etc. Donc, ils vont vouloir se venger. Comme ils ne peuvent pas se venger, ben, ils vont instaurer une sorte de tradition politique qui va durer jusqu'à les années 30. C'est l'assassinat politique. Et donc, il va y avoir toute une série d'assassinats, si vous voulez, d'attentats en quelque sorte, et ça va venir de là. Alors au début, c'est les samouraïs qui veulent se venger, puis après, ça va être une pratique. Quand vraiment on va trouver que quelqu'un exagère, qu'on est, qui va contre les intérêts supposés du Japon, moins celui qui le pense, et bien dans ce cas-là, à la limite, il faut le rayer de la carte. Donc l'assassinat politique va être presque une tradition, si vous voulez, jusque dans les années 30 après. Donc vous voyez, le Japon, c'est un pays relativement violent, hein, quand même, même si on a l'impression que c'est relativement calme, c'est pas tout à fait pareil. Bon, voilà, si vous voulez, pour cette réforme, il restait une chose à dire quand même, j'oubliais encore,
et le peuple. Parce que le peuple, vous vous rappelez, sur la pyramide, il devait être quoi faire. Eh bien, le peuple, on va dorénavant l'appeler le peuple, justement, parce qu'avant, il n'avait pas de nom. Et il n'avait tellement pas de nom qu'aucun membre du peuple n'avait le droit de porter de nom de famille. Ben, dorénavant, il aura un nom de famille. Dorénavant, il aura le droit de monter à cheval. Dorénavant, il aura la même justice que les autres, etc. Il aura la même capacité de travailler, la même capacité, ben, disons, d'être jugé, la même capacité ben, de faire ce que les autres font. Donc, si vous voulez, quelque chose d'assez extraordinaire. Plus de privilèges, il peut se déplacer, il peut changer de métier, etc. Bon, vous avez compris, la révolution, elle a eu lieu par le haut. Elle s'est faite pratiquement sans effusion de sang si on accepte la révolte des samouraïs, mais enfin, bon, c'est quand même relativement limité. Bon, en gros, au départ, il n'y a pas franchement de gros traumatismes. Alors, à partir de là, ben, maintenant, la voie est libre, puisqu'il n'y a plus d'opposants. Donc, il ne reste plus qu'à faire la série de réformes. Alors là, c'est la dégelée. Hein. Alors, la réforme, c'est quoi? Alors là, c'est très clair aussi. C'est emprunter, on l'a vu, selon le serment des cinq articles, c'est emprunter ce qu'il y a de meilleur dans chaque pays. Donc, ça veut dire qu'entre 1860, déjà d'ailleurs avant même la prise de pouvoir, et jusque vers 1890 environ, eh bien, vous allez avoir des quantités de samouraïs anciens, de daimyos, bon, qui font ce choix d'aller à l'étranger pour, ben, disons, inspecter un petit peu tout ce qui se passe véritablement. Attendez, on va revenir un peu là-dessus. Donc, pour inspecter ce qui se fait, si vous voulez, donc à l'étranger, ce qu'il y a de mieux. Alors, on va aller dans tous les, si vous voulez, les pays qui sont en partie prenante du Japon. Et on va aller, par exemple, si vous voulez, du côté ben, des Américains. On va aller en France, on va aller en Angleterre. Bon, tous les pays qui sont venus au Japon vont être, en quelque sorte, inspectés, donc, et puis observés, donc, à la lettre, et puis avec une loupiote assez intéressante. Bon, à partir de là, ça veut dire quoi? Ben, très vite, on se rend compte que chaque pays a ses idées, et chaque pays a ses forces et ses faiblesses. Bon, ben, pour aller vite, le monde occidental, les idées en matière militaire et médicale, ça va être l'Allemagne. Là, ça va être les Allemands, parce que, bon, ben, vous avez compris, ils nous ont battus. Hein. Pendant longtemps, on pensait que la France, eh ben, les Allemands sont meilleurs, il n'y a pas 36 solutions. Donc, militairement parlant, pour l'armée terrestre, c'est les Allemands qui vont être les modèles. Bon, ensuite, on continue, les États-Unis et les Anglais, le commerce. Manifestement, les Japonais ont tout de suite compris que les Anglo-Saxons, le commerce, c'était franchement leur boulot, hein, et donc il fallait prendre des leçons là-dessus. Ensuite, on continue, l'Angleterre, bah, la marine, c'est évident, hein, maître des mers, ils font ce qu'ils veulent ou à peu près, et le droit aussi, parce que ça les intéresse, l'habeas corpus, etc., et tout ça, bon, c'est quelque chose qui est intéressant à connaître, bon, ça ne veut pas dire qu'on va l'appliquer, hein, mais par contre, c'est intéressant. Ensuite, là encore, la France. Alors la France, pourquoi? Pour plusieurs choses. Le droit. Alors, Napoléon, pour eux, ça va être génial. Là, le droit civil, le code civil, etc., là, Napoléon, ils en feront des quantités de choses. Et puis, ben, il y a malgré tout la marine. Parce que la marine française, elle a un très bon prestige. Et il y a notamment un amiral qui va se faire le spécialiste de nos relations avec le Japon, Émile Bertin. Bon, Émile Bertin va construire deux arsenaux au Japon, donc qui vont être entièrement français, et qui vont commencer à produire, ben, disons, des croiseurs, etc., des bateaux. Donc, vous voyez, la France, elle est reconnue aussi pour plusieurs choses. Également une chose, la France, l'enseignement. L'enseignement, ça va être pratiquement un des modèles, si vous voulez, que les Japonais vont prendre. Hein. Alors, oui, c'est tout bête, hein, on va le dire après, l'enseignement, parce qu'on a un enseignement qui se fait au mérite. Avec le concours, qu'est-ce qu'ils veulent, les Japonais? Ils veulent les meilleurs. Donc, un enseignement qui est élitiste, il n'y a pas de problème. Ça leur convient. Donc, par conséquent, de ce point de vue-là, l'enseignement français, ben, ça va être tout à fait dans leur corde. Donc, vous voyez, voilà un peu ce qu'ils vont faire. Alors, à partir de là, on apprend tout ça, puis ensuite, ben, on fait des réformes. Alors, quelquefois, on se plante un peu, on corrige après, mais en gros, on fait. Première réforme, réforme judiciaire. C'est simple, la loi est unifiée, elle est égale pour tous. C'est la fin de la justice seigneuriale, c'est la fin de tout ce qui existait avant. Bon, on rédige des codes, alors pas la peine de faire un dessin, là on prend le code napoléonien, le code civil, etc., et on décalque. Bon, on applique évidemment, mais là, Napoléon, c'est vraiment la source, en quelque sorte, du droit. C'est pas si simple que ça. Hein. Le code civil en particulier, bon, il y a pas mal de choses à changer. La réforme de l'enseignement. Alors, la réforme de l'enseignement, c'est fondamental, parce que, rappelez-vous, l'enseignement, c'est la base de tout. Si on veut réussir une nouvelle économie, une nouvelle société, il faut que le peuple... Ben, il est une éducation. On n'a pas forcément une éducation supérieure. Si, pour les meilleurs. Mais pour les autres, il faut au moins une éducation moyenne ou au moins une éducation basique. Quelqu'un qui travaille sans comprendre ce qu'il fait, la productivité ne va pas être géniale. Bon, ben, les Japonais ont tout de suite compris qu'il fallait donc justement les éduquer. Et vous voyez, souvent, les pays qui font ça ont eu la frousse d'éduquer. Parce qu'ils disent un jour, ils vont comprendre qu'ils sont exploités, ils vont se révolter. Oui, mais là, avec l'empereur, qui est cette personne sacrée qui couvre tout, et dans qui on a, disons, un dévouement absolu, ça permet de faire passer pas mal de choses. Donc finalement, éduquer le peuple basiquement ou moyennement, voire même un peu plus, finalement, c'est pas un danger. Alors, c'est pas compliqué. En 1871, ministère de l'instruction publique, et à partir de là, l'éducation devient obligatoire pour tous, filles et garçons. Bon, on va donc, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. 1871, c'est 10 ans avant Ferry, hein. Bon, donc, alors maintenant, pas exagéré, en 1900, vous aurez à peu près 50% des garçons qui seront scolarisés, 20% des filles. 10 ans plus tard, on sera pratiquement à égalité à 85%. Pourquoi 15%? Parce qu'il y a beaucoup de mal dans les campagnes, comme partout, hein, laisser partir les jeunes, hein, qui travaillent, bon, au champ, etc., et dans les rizières, ce que vous voulez. Mais ça s'applique véritablement. L'égalité des sexes, on va dire qu'elle se fait à l'école à partir de 1905-1908, pour l'essentiel, au sens strict du terme. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Les enseignants, ils sont recrutés à l'étranger, hein, faut pas chercher. On leur demande tout simplement d'apprendre aux Japonais à enseigner. Et on va chercher des enseignants là partout, que ce soit aux États-Unis, en France, ailleurs, etc. On les paye très très cher, bien sûr. Et comme les Japonais ne veulent pas que ça dure trop longtemps, en 20 ans, ils sont capables ensuite de reproduire. Et vous voyez, on commence en 1871, en 1900, pratiquement, il n'y a presque plus de professeurs étrangers dans le secondaire. Vous voyez, pour vous dire à quel point donc les Japonais apprennent vite et se passent vite des étrangers, après nous avoir en quelque sorte pompé, entre guillemets, donc ce qu'on savait véritablement. Ensuite, deuxième chose qu'il faut voir, il faut faire assimiler le savoir étranger. Donc on met en place un système éducatif stable, avec 6 années d'études en primaire, 8 années en secondaire et 3 années en université. Pas la peine de chercher, là encore, décalque du système napoléonien. Le lycée, etc. Bon, donc, si vous voulez, donc le primaire, le secondaire et le supérieur en même temps. On crée des écoles, bien sûr, on crée des lycées et on crée une université. L'université impériale de Tokyo. Hein. L'université impériale de Tokyo, elle s'appelle Todai. Et cette université, c'est toujours aujourd'hui la plus prestigieuse. Hein. Pour rentrer à cette université, c'est vraiment un parcours plus que du combattant. Bon, c'est la première qui existe. Mais en même temps, ce qui est original, c'est que on fait appel aux bonnes volontés des daimyos qui sont les lettrés. Et les daimyos vont se faire un point d'honneur de créer des universités privées, dans lesquelles ils vont payer les études d'un certain nombre d'élèves. Et on aura, par exemple, la grande université privée qui va être créée quelques années après Todai, c'est Keio, qui est aussi à Tokyo, et qui est aujourd'hui, les deux, en quelque sorte, se font une bagarre pas possible, si vous voulez, pour savoir laquelle est meilleure, si vous voulez, c'est comme chez nous dans les études économiques, c'est HEC d'un côté, l'ESSEC de l'autre, c'est à peu près le même principe. Bon, donc aujourd'hui, ça reste très prestigieux. Donc vous voyez, on crée tout ça. Alors ensuite, regardez, les gamins, voilà ce que ça donne. Donc ça, l'école primaire. Alors vous voyez tout de suite, quand même, le port de l'uniforme, manifestement quelque chose d'assez militaire, ça c'est les étudiants. Vous voyez, les étudiants, donc, pareil, hein, il n'est pas question de revenir à la tradition japonaise, hein, les choses sont bien claires de ce point de vue-là. Bon, que vous dire encore? Ah oui, j'oubliais, pour aller plus vite, en 1873, on adopte le système métrique et le calendrier grégorien. Vous voyez, paf, tout y va en même temps. Donc, on garde quand même l'ère impériale, normal. Mais l'ère impériale, c'est pour la cour, ça n'a rien à voir avec le résultat. Alors, cette réforme, elle est inspirée du modèle français. Et vraiment, exclusivement de les Français. Je vous l'ai dit tout de suite, à cause du concours, à cause de l'élitisme. Et si vous voulez, pour les Japonais, c'est vraiment fantastique. On doit dégager les meilleurs. Alors, l'enseignement, on fait ce qu'on peut. Donc, par conséquent, se dire, si vous imaginez qu'on va faire des, entre guillemets, agrégés d'histoire ou de philo, etc., c'est pas le boulot, hein. Ce qui compte à ce moment-là, c'est le technique, c'est l'ingénieur, c'est le professionnel, etc. Après, quand on aura le temps, effectivement, on fera un peu plus de littérature et de lettres classiques, quoi. Bon, mais en attendant, il y a quand même d'autres priorités. Alors bon, vous voyez, c'est toujours pareil. Bon, ils vont aller très vite, hein, très vite, ils vont tout faire, mais quand même. Alors, là encore, si vous voulez, si on regarde un petit peu, il faudrait que vous me retrouviez en Word, le rescrit impérial sur l'éducation. Donc, l'empereur, justement, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, rescrit sur l'éducation, PDF, là, je l'ai vu tout de suite, voilà, celui-ci. Bon, vous allez voir, il est assez intéressant, rescrit impérial, la loi. Voyez à nos sujets, que nos sujets fassent preuve de piété filiale à l'égard de leur père et de leur mère. Tiens, Confucius, il n'est pas loin. Hein. Bon, ensuite, on continue, d'affection à l'égard de leurs frères et sœurs, que l'harmonie règne entre mari et femme, tant qu'à faire, la confiance entre compagnons. Qu'il soit donc respectueux et modeste, qu'il manifeste amour et estime à tous, qu'il se consacre à l'acquisition des sciences, etc. Bon, vous voyez à peu près ce que ça donne, qu'ils augmentent le bien commun, qu'on pourrait progrès les choses d'ici-bas. Bon. que toujours ils honorent la Constitution. Bon, on va voir qu'elle ne va pas tarder à être mise en place, obéissent aux lois, si les circonstances se sacrifient à l'État et de loyauté et de courage. C'est très clair, hein. Il ne s'agit pas de promouvoir l'indépendance d'esprit. Hein. Il y a quand même une hiérarchie, la hiérarchie familiale, la hiérarchie de l'État, la hiérarchie impériale. Bon, qu'ainsi il serve la prospérité de notre trône, tant qu'à faire, là aussi, il n'y a pas de raison, qui est éternel comme le ciel et la terre. Bon, vous voyez, bon, de la sorte, fidèle, illustrant les traditions léguées par leurs ancêtres, c'est assez extraordinaire. Quoi. Vous avez pratiquement toute l'idée de l'éducation et toute l'idée, en gros, de ce que doit être la révolution Meiji là-dedans. Parce qu'évidemment, c'est de la réussite de cette éducation que va réussir ensuite la discipline japonaise, la volonté, l'effort, etc. Bon, ben, à partir de là, c'est très clair. Il faut des citoyens qui soient bons, vous avez compris, mais avec ça, il faut aussi des citoyens qui soient soumis. L'endoctrinement est essentiel dans les cours. C'est pas compliqué. Il le dit franchement, du moins c'est le ministre qui le dit, pas lui. Il ne faut pas apprendre à penser, mais apprendre ce qu'il faut penser. Vous voyez que, bon, de ce point de vue-là, il n'y a pas photo, hein. Bon, on sait ce qu'on a. Exactement. Et donc, bien sûr, en même temps, vous l'avez, deux autres composantes essentielles, le nationalisme, vous l'avez ici, et en même temps, la fidélité à l'empereur. Bon, ça, c'est jusqu'au sacrifice total, hein, on est bien d'accord. Pour l'armée, ça va être très important, je pense que vous imaginez. Pour l'armée, ça, plus l'ancien code Bushi des samouraïs, bon, au niveau des officiers, l'armée japonaise va être particulière. Je vous rappelle que les Occidentaux, on va mettre longtemps à se dire, enfin, c'est pas possible, ils se sacrifient. C'est l'inverse de ce qu'on fait dans tout l'art militaire occidental, quoi. Le principe du jeu, c'est d'essayer de subir le moins de pertes, en tout cas d'essayer de sauver les meubles, pour pouvoir éventuellement reprendre le combat après. Non, là, c'est pas cette question-là. Bon, vous voyez, l'éducation va y être pour quelque chose d'important. Bon, bref. Ensuite, après ça, ben, vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure, ben, si vous voulez, on revient sur les diapos. Et à ce moment-là, donc, on a la réforme administrative. Alors, je vous ai déjà parlé, donc, si vous voulez, donc, de tout ce qui était les Ken, etc. Donc, c'est toujours... Voilà, ici, très bien. Et ça, si vous voulez, c'est l'arrivée, donc, de la Constitution. Vous vous rappelez, dans les 5 articles, il avait dit que l'empereur qui s'adresserait au peuple et qui demanderait de temps en temps, entre guillemets, son avis au peuple. Eh bien, il va le faire. Donc, c'est la réforme administrative, et elle est faite de la Constitution, vous voyez, en 1889. C'est le 11 février. C'est pas du tout par hasard. Le 11 février, c'est la date de naissance du premier empereur mythique du Japon, le fameux Jimmu, qu'on avait vu 6e siècle avant notre ère. Vous voyez que, par conséquent, donc, il s'agit de bien montrer qu'il y a une continuité entre l'empereur moderne qui donne une Constitution et l'empereur mythique qui a fondé, finalement, la dynastie impériale. Vous voyez que les symboles au Japon... D'ailleurs dans toute l'Asie, mais au Japon en particulier, et les codes sont assez impressionnants. Alors là, c'est pas compliqué, la Constitution. De quoi on s'inspire? Alors cherchez pas, c'est vite fait. On est allé voir les Américains. Ouais, mais c'est une république. Un empereur, une république, c'est pas la joie. Bon, donc ça va pas. La France, ben, idem. Bon, par conséquent, il y a les Anglais. Oui, mais les Anglais, bon d'accord, l'empereur, c'est peut-être une potiche, mais en théorie, ça l'est pas. Donc, par contre, le roi d'Angleterre, lui, sait. Hein, essentiellement, il inaugure les chrysanthèmes, quoi, pour l'essentiel. Bon, en étant en dehors de ça, bon. Alors, du coup, ça ne va pas non plus. Par contre, l'Allemagne, nom de chien. L'Allemagne avec un empereur, le Kaiser, avec deux chambres, etc., mais en même temps un empereur qui fait ce qu'il veut, alors ça, c'est génial. Donc, par conséquent, la Constitution, c'est une Constitution de type allemand, ni plus ni moins, parce qu'elle correspond tout à fait à ce qu'il faut. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend tout. La Chambre basse, l'Assemblée nationale, ça s'appelle la Chambre des représentants. Ça, c'est piqué aux Américains. Hein. Donc, la Chambre des représentants, suffrage censitaire, faut quand même pas exagérer. Suffrage censitaire, il y a 16 millions d'électeurs potentiels en 1889. 16 millions. Il y aura 450 000 électeurs réels. Donc, c'est-à-dire que le sens, je vous fais pas un dessin, il est plutôt restrictif, hein, pour pas dire pire que ça. Bon, donc on est tranquille, ça sera les plus riches, forcément, hein, qui seront là. Mais quand même, on a quand même un peu la frousse, et par conséquent, on se dit, il faut quand même qu'il y ait une chambre qui soit encore modératrice par rapport à ça. Donc, la voilà, cette chambre des représentants, vous l'avez, donc on va mettre une chambre des pairs. Alors, la chambre des pairs, le Sénat, en quelque sorte, là, c'est anglais, la chambre des pairs, hein, à ce moment-là. Bon, et puis français, vous vous rappelez, on a eu pas mal de chambres des pairs nous-mêmes. Eh bien, la chambre des pairs, ils sont, eux, désignés par l'empereur. Carrément, c'est aussi simple que ça. Et ils sont désignés par dans les membres de la nouvelle bourgeoisie. C'est-à-dire ceux qui ont le plus gagné, ceux qui ont le plus à gagner, donc du système qui se met en place. Et pour, disons, couronner le tout, obligatoirement, on a comme membres de la Chambre des Pairs les 45 japonais les plus imposés à l'époque. Donc vous voyez, à partir de là, on est tranquille, hein, on ne va pas se fatiguer, il y aura forcément pas mal de choses possibles. Bon, voilà, alors, ce régime, il n'est pas parlementaire, hein, les ministres sont responsables uniquement devant l'empereur, bon, Donc une constitution qui donne en théorie la parole à la nation dans la réalité. Là encore, ça vient d'en haut pour l'essentiel. Hein. Ça prendra du temps avant de changer. Bon, ça veut dire que, si vous voulez, les champs que vous avez là, la diète, c'est l'ensemble des deux. Hein. Cette chambre, ces chambres sont ni plus ni moins qu'une chambre d'enregistrement. C'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Dernière autre réforme, à peu près, la réforme militaire. Alors la réforme militaire, ben, c'est l'armée de conscription qui remplace l'armée féodale. Et ça, on l'a vu, rappelez-vous, dès 1873, c'est fait. Alors, service obligatoire pour tous, de 17, les hommes seulement, de 17 à 40 ans, ça fait beaucoup de monde. Obligatoire pour tous. Bon, tout le monde n'y part pas. Donc, en gros, ça fait un peu comme le système de conscription qu'on connaît en France vers 1872. Vous tirez un bon ou un mauvais numéro. Vous connaissez le système. Donc, ça veut dire qu'il y en a aussi qui sont exemptés, les fils de Démios, enfin, bon, tous ceux qui ont un rôle dans... Bon, donc, si vous voulez, c'est parfaitement inégal, mais ça permet d'avoir quoi? Ça permet, en temps de paix, d'avoir 140 000 hommes à disposition et 550 000 en temps de guerre, tout de suite. Donc, par conséquent, donc, quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on va chercher? Les instructeurs de l'armée de terre et le matériel de l'armée de terre, c'est allemand. Normal, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Prussiens ont gagné, bon, contre les Français, donc forcément, c'est eux. Les Anglais, on n'y va pas, hein, parce que les Anglais, eux, c'est la mer, mais pas du tout la terre, bon, etc. La marine, je vous ai dit, bah, c'est les Français et donc les Anglais pour l'essentiel. Bon, cette armée, elle va très vite faire des preuves de son efficacité, hein, ils apprennent très vite. Et la première efficacité, bah, c'est contre les samouraïs, les pauvres, bon, vous me direz que ça c'était un peu facile, mais très rapidement, ça va être une première guerre contre la Chine, en 1875, et les Chinois, bah, ils vont se faire déblayer à la vitesse grand V. Bon, ça sera une petite répétition. Il faudra attendre 1895 pour se récupérer Taïwan, mais bon, ça sera un peu plus tard. Par conséquent, donc, si vous voulez, réforme de l'armée, l'armée devient moderne, l'armée devient puissante. Hein, c'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure aussi, vous voyez celle-ci. Bon, vous voyez une armée hein, tout à fait à l'occidentale, hein, armée à l'occidentale, etc. Bon, une armée qui, là aussi, bon, ben, vous voyez, est efficace. Hein, vous voyez d'un côté les Chinois qui, véritablement, paraissent d'un autre âge, et puis à côté, bon, ben, disons une armée qui est tout à fait différente. Vous voyez, une autre façon de représenter, les Chinois à terre, évidemment, bien sûr, et les Japonais qui l'emportent, bon, ben, ça, c'est classique et habituel. Bon, il reste une chose pour finir ces réformes, ben, c'est l'économie. Alors, les réformes économiques, ça, c'est un sacré morceau. Alors, là, on va passer sur la partie économie et sur le schéma. Hein. Donc, sur cette économie, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, d'abord, on a dit que c'était quelque chose qui partait d'en haut. Alors, le plus simple pour comprendre un peu comment ça marche, c'est cette espèce de petit schéma que j'ai fait rapidement, parce que, bon, ben, vous voyez tout de suite un peu la finalité de la chose. Alors, d'abord, si vous voulez quand même, pour que ça marche, il faut créer des infrastructures essentielles. 1871, on crée une monnaie nationale, parce qu'il n'y en avait pas. Rappelez, avant, c'était le cocou, le troc, etc. Eh ben, on crée l'yen. 1871, c'est la naissance du yen. Il est convertible en argent, parce qu'il y a plus d'argent au Japon que dehors. Mais alors, les Japonais se sont plantés. Ils ont fait un cours en argent qui est différent de celui de l'Europe. Donc, résultat, il va y avoir une spéculation. L'argent va partir à vitesse grand V. Donc, ils ont envie de comprendre. Ils vont faire ensuite un bimétallisme, puis ensuite un monométallisme or. Bon, ils ont envie de comprendre le système. Donc, ils créent la monnaie nationale. En même temps qu'on crée la monnaie, en 1872, un an après, un système bancaire. Un système bancaire avec des banques qui sont créées par qui? Les daimyos ou les samouraïs les plus malins qui recyclent leurs indemnités dans ces nouvelles institutions et qui vont évidemment faire un fric pas possible. Bon, donc, vous voyez l'idée. Bon, comme on s'aperçoit que c'est bien gentil, mais que c'est un petit peu pagailleux tout ça, on attend 10 ans, mais en 1882, c'est la création de la Banque du Japon. Vous voyez, donc en l'espace de 10 ans, on crée un système monétaire tout à fait à l'occidental. À l'imitation un peu la Banque du Japon de la Banque fédérale de réserve américaine. C'est-à-dire une banque assez décentralisée, à la fois privée, publique, etc. Bon, peu importe. Ensuite, on crée la bourse aussi, puisqu'on va créer des entreprises. Donc en 1874, on crée la bourse de Tokyo. Hein. Donc voilà à peu près déjà le point. Ensuite, bon ben, c'est ça. Alors comment est-ce qu'on se débrouille? Alors regardez, c'est tout bête, mais c'est efficace. Vous avez l'État, donc l'empereur, en théorie, bon, en réalité, donc les oligarques, comme on les appelait au départ. Alors vous voyez, tout part de là. D'abord, ceux qui sont les plus nombreux, c'est les ruraux, c'est les paysans, ceux qui viennent d'être propriétaires, là, depuis 1872, etc. Ils sont très contents, et simplement, ils vont avoir des impôts à payer. Jusque-là, rappelez-vous, on payait des impôts, mais en nature. Voilà, révolution en espèces. Et en gros, 3% par rapport à la valeur de la terre, qui est d'ailleurs, disons, appréciée assez, de manière assez arbitraire, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est pour que ça rapporte le plus possible. Donc, à partir de là, si vous voulez, la population rurale doit produire suffisamment pour se nourrir elle-même et sa famille, mais en même temps dégager un surplus qu'elle vend de façon à se procurer l'argent, les espèces nécessaires, pour payer les impôts. D'où les rentrées fiscales à l'État, État qui a besoin évidemment d'énormément d'argent pour faire tout ça. Problème, bien sûr, c'est que tous les paysans, ils ont beau être contents, ils ne sont pas tous bons. Et à partir de là, bien sûr, bah, y a ceux qui ne vont pas y arriver. Il y a ceux qui ne vont pas arriver à produire assez pour eux-mêmes et surtout pour dégager les excédents financiers. Résultat, bah, cette population rurale, il y a des gens qui vont donc du coup être obligés de vendre leur propriété à d'autres, qui vont commencer à grossir, et on va voir se mettre en place une moyenne paysannerie. Et des paysans qui en fait vont devenir ouvriers agricoles. Et le problème, en même temps, regardez ce que fait l'État, il change complètement la donne en ce qui concerne la politique nataliste. Là, on interdit l'avortement, qui était hautement recommandé avant, puisqu'il ne fallait pas que la population, rappelez-vous, dans la période Edo augmente trop, sinon comment voulez-vous qu'on puisse vivre? Et puis, on interdit l'infanticide. L'infanticide qui était couramment pratiqué, surtout chez les filles, comme d'habitude. Bon, mais l'infanticide aussi chez les garçons, qui étaient généralement considérés comme trop malingres. Alors bon, vous savez, l'exposition au soleil, c'est vite fait. Hein. Bon, alors souvent, ça choque un peu. Je vous rappelle qu'en Europe, on a fait la même chose. Hein. Vous prenez les Spartiates, Sparte, l'exposition des enfants. Quand vous aviez un gamin qui naissait, qui était un peu trop malingre, ben c'était pareil, c'était l'exposition. Donc, si vous voulez, faut bien comprendre que, bon, quelquefois on dit, c'est japonais, quel barbare. C'était la réaction souvent d'occidentaux qui ont eu ça. Enfin, dans nos tréfonds de notre civilisation, on a fait ça aussi. Donc, par conséquent, bon, voilà, alors, on sait comme ça. On lutte contre les épidémies, l'hygiène, ben, évidemment, grâce à la science, la médecine occidentale, etc. Résultat des courses, vous imaginez ce que ça donne, un accroissement de la population à la vitesse grand V. Regardez ce que donne, 1870-34, 1452 millions. Bon ben, vous rappelez la taille du Japon. Vous rappelez par conséquent la possibilité de taille des exploitations agricoles. Il y a trop de monde. Résultat, ces gens-là, ben, ils ne peuvent pas tous vivre. Alors il y a les malins qui se débrouillent, par conséquent, eux vont s'en sortir, ils vont payer les impôts. Et ceux qui ne débrouillent pas, ben, ils n'ont plus qu'une chose à faire, c'est foutre le camp. Et donc, aller où? Ben, aller là où il y a du boulot. Donc, par conséquent, en ville, parce que c'est en ville qu'on est en train de créer les industries nouvelles. Celles qui vont faire la nouvelle économie. Donc, il faut passer de l'autre côté cette fois-ci. L'État, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il amorce la pompe. Donc, l'État finance les travaux publics, c'est-à-dire quoi? Les infrastructures, les routes, les voies de chemin de fer, les ports, etc. Donc, ça coûte les yeux de la tête, mais l'État paye. Puis, en même temps, bah, il faut créer des industries. Alors, il y a certains malins dans les samouraïs et autres qui vont créer des industries, mais ça ne suffit pas. Et puis, ils n'ont pas assez de moyens. Donc, c'est là encore l'empereur, enfin, du moins l'État, qui va, là, créer les premières industries. Les premières industries, les premières fonderies importantes, les premières usines d'armement. L'État, il n'est pas fou, il va surtout du côté de ce qui peut renforcer son arsenal militaire pour l'essentiel. Résultat, à partir de là, il crée de grosses entreprises industrielles. Bon, donc, si vous voulez, vous avez vraiment une industrialisation, une révolution industrielle, là aussi, qui se fait par le haut. Vous voyez, radicalement différent de nous. Bon, à partir de là, ce qui est plus original, c'est la suite. C'est que l'État et l'empereur, il n'a pas vocation à être un capitaliste. Il a beau à peu près tout posséder, il n'a pas envie véritablement de se transformer en un gestionnaire d'entreprise. Puis d'ailleurs, il ne sait pas faire. Puis il s'aperçoit assez vite que ces grandes entreprises, ce n'est pas les gérer, qu'elles perdent des quantités d'argent. Donc du coup, il va chercher des gens qui sont des petits entrepreneurs, qui ont commencé à se faire, qui sont malins, qui savent se débrouiller, qui savent gérer. Et il leur dit, ben c'est bien, vous êtes d'accord pour signer une sorte de pacte. Eh bien, on vous vend ces industries qu'on a créées. Je ne dirais pas qu'on le vend au yen symbolique, mais quasi. Vous voyez ? C'est-à-dire à un prix ridicule. Et par conséquent, ces groupes familiaux, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, on leur demande en échange, vous vous engagez à gérer le mieux possible, pour la grandeur du Japon, la grandeur de l'économie, les industries qu'on vous remet. Et à partir de là, on choisit évidemment des familles qui ont déjà fait leurs preuves. Bah, ces familles, ça va devenir ces fameux zaibatsu. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques années, vous allez avoir les deux tiers de l'économie japonaise qui va être dominée par cette famille. Vous connaissez par exemple Mitsui. Bah, Mitsui, c'est le prototype même d'un ancien marchand, si vous voulez, de l'époque d'Edo, qui a réussi, qui lui a su sentir le sens du vent, et qui va donc fonder Mitsui. Vous connaissez un autre qui s'appelle Iwasaki. Bah, lui, il va fonder Mitsubishi. Et Iwasaki, c'est quoi? C'est un ancien samouraï qui a réussi. Donc, si vous voulez, ils vont réussir à mettre en place, bon, une quantité d'économies assez rapidement, assez importante. Bon, en plus, rendez compte ce qu'ils peuvent faire. La main-d'œuvre, elle est là. Bon, la main-d'œuvre, elle est évidemment importante, elle est plus que bon marché, elle est quasiment donnée, on en fait ce qu'on veut, on l'exploite comme on veut. Puis ils n'ont rien à dire, puis ils connaissent rien de toute façon. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils crèvent à la campagne ou ils crèvent en ville? Au choix. Donc, par conséquent, ben, ils préfèrent la ville. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc, à partir de là, si vous voulez, c'est le moment où on exploite à mort, au sens strict du terme. Dans les mines, en particulier, par exemple, de charbon, d'abord, on met les bagnards, puis ensuite les autres, mais la mortalité est effroyable. Enfin, c'est vraiment des générations qui sont sacrifiées, si vous voulez. Bon, simplement, ils n'ont pas le choix, puis maintenant, il y a une certaine armée, malgré tout, qui maintient tout ça. Et puis, c'est l'empereur qui l'a demandé, donc il n'y a pas de raison. Bon, donc, main-d'œuvre importante, bon marché. Et puis, à partir de là, ben, c'est bien gentil, on produit beaucoup, mais pour qui ? Bah évidemment, un peu pour l'intérieur, mais pas suffit, pas trop, si vous voulez. Donc, il faut absolument trouver des débouchés. Il faut vendre à l'extérieur. Et puis, trouver des débouchés, c'est bien, mais pour produire, il faut aussi de l'énergie et de matières premières. Alors, le Japon, il a beaucoup de choses, un peu de charbon, mais en dehors de ça, il n'a pratiquement rien. Donc, il faut des matières premières pas chères, de l'énergie pas chère. Ben, où les trouver ? Ben, à l'extérieur. Et à ce moment-là, si entre-temps, on a fait une armée suffisante, si on a une main-d'œuvre importante bon marché, à certains moments, il y a trop d'exode rural par rapport à ce qu'on peut donner comme emploi. Ben dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Ces gens-là, soit on les transforme en soldats, soit surtout on va les transformer en colons. Et à partir de là, ben, si on a une armée suffisante, eh bien on va faire comme les Européens, on va aller se récupérer quelques morceaux de ce qu'il y a en face, par exemple. Et à partir de là, bon, ben, on colonisera sans problème. Et c'est comme ça qu'à partir de ce système, vous avez forcément un aboutissement qui ne peut être autre que l'impérialisme. Donc, vous voyez, par conséquent, la boucle, la réforme est à peu près bouclée, puisque en partant de ce système-là, l'économie, finalement, ne peut vivre et ne peut survivre, et surtout ne peut prospérer, ben, que si vous avez quand même une prédation qui doit être faite à l'extérieur. Donc, du coup, à partir de là, si on revient sur le système général, toujours sur l'économie, plutôt... on va voir un petit peu, justement, quelques photos. Voilà, une mine, une fonderie. Alors, regardez, par exemple, oui, la mine, donc, avec le train, vous voyez. Une fonderie, vous apercevez peut-être sur le trône, c'est l'empereur. L'empereur qui est là pour assister, donc, à la coulée, pour dire à quel point il est pour, etc. Vous voyez, un petit de la suivante. Première ville industrielle, vous voyez que ça commence à progresser assez vite, quand même. Hein. Bon, on a quelques photos, c'est pas génial, mais enfin, quand même. Ensuite, une industrie textile. Hein. Une usine textile, bon, ben... Imaginez les petites mains en question. Vous voyez à peu près ce qui s'est passé il y a quelques années, puis encore en Chine. Quand on vous montrait, vous savez, ces filles qui vivent dans des dortoirs entassés, etc. Vous imaginez la même chose que ça, mais en 10 fois pire. Oui. Donc, c'est ça aussi la révolution industrielle. Allez-y, encore un petit coup. Et puis voilà, ben, c'est ça. Ça, c'est un zaibatsu. Hein. C'est-à-dire, ben, c'est Mitsui, justement, dont on parlait. Vous voyez, on met en place un holding qui permet de contrôler toute une série de sociétés. Et ces sociétés, vous voyez, à différents niveaux. Une société contrôlée directement, un contrôle indirect, des sous-traitants. On invente déjà la sous-traitance. C'est-à-dire le système, si vous voulez, qui a fait la puissance du Japon, ce fameux dualisme entre les grandes sociétés et les sociétés de niveau 1, niveau 2, niveau 3 de sous-traitance, il est déjà inventé en 1890. Bon. Donc tout ça, si vous voulez, ben, c'est une efficacité assez extraordinaire. Donc ça ne vous étonnera pas à partir de là que tout ça, bon, ça soit une réussite au final. Bon, ça on va laisser tomber parce que ce n'est pas la peine. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ben c'est ça. Ça donne le nouveau Japon. C'est-à-dire, ça c'est une rue de Tokyo. Alors regardez, la rue de Tokyo, elle est marrante parce que vous avez à la fois la lumière électrique, vous avez en même temps le tramway, vous avez la foule qui est soit habillée à l'occidental, soit habillée d'une manière traditionnelle. Passez voir la suivante. Même chose, sauf que là, on est près de la mer. Alors regardez, là, c'est pareil. Si vous regardez le train, regardez comme ils sont habillés, les militaires et autres et tout. Il y a un peu de tout. Regardez au fond, on voit bien le changement. Vous avez à la fois des bateaux jonques et puis les premiers bateaux, disons, plus modernes qui apparaissent, etc. Donc tout ça, si vous voulez, c'est véritablement la transformation du Japon en peu de temps. Oui, on va voir la suivante. Ben, là, c'est une photo du côté de Ginza, qui est un des principaux quartier donc de Tokyo, alors, vous voyez qu'il y a un peu de tout, un autre à peu près le même genre. Bon, vous avez donc cette transformation donc à la vitesse grand V du Japon. Bon, on peut dire qu'en l'espace de quelques années, on ne le reconnaît plus véritablement. Donc voilà, si vous voulez, cet aspect des choses. Bon, donc à partir de là, bon, ben, on a vu, on va dire, l'essentiel de ce point de vue. Le premier bilan, ben, je pense que bon, on va juste passer quand même, je vous redirai un mot la prochaine fois, simplement, parce que là, après, ça nous a entraîné trop longtemps. Faites voir l'armée, et puis, donc, on verra ça, voilà, celui-ci. Allez voir sur la suivante. Bon, ben, ça, c'est le Breakup of China. Vous voyez ce que ça donne. Donc, vous avez reconnu le Chinois, l'empereur, qui est en train de dire « au secours, on est en train de me voler ». Et puis, vous avez ben, tous les prédateurs qui se partagent le gâteau, quoi. Alors, vous avez reconnu à gauche, bien sûr, Victoria, ça va de soi, la reine d'Angleterre. Ensuite, Vous avez donc le Kaiser, hein, ça va de soi. Ensuite, Nicolas II, le Tsar. Ensuite, la France. Bon, nous, on est derrière un petit peu quand même. Et puis l'autre, c'est le Japonais, hein, donc, qui est là. Bon, donc vous voyez, on se partage aussi chacun le sien. Allez-y pour la suivante. Ensuite, voilà ce que ça donne ensuite. Les premiers bateaux faits par du côté avec l'expérience française, anglaise. Bon, cuirassé. Bon, là, c'est le cuirassé amiral, c'est le Mikasa. C'est le plus beau qu'ils aient au départ, et c'est celui qui va être le vaisseau amiral dans la guerre contre les Russes et qui va écraser la flotte russe à Tsushima. Donc, ça monte très vite. Hein. Alors, vous voyez la flotte japonaise. Vous voyez qu'en l'espace de peu de temps, ça, c'est en 1905. Hein, c'est vite fait. Donc, par conséquent, on connaît bien. Avec les... Et puis, alors, voilà. Ben, ça, c'est les problèmes. Les Russes, les Chinois d'un côté, ou Corée, enfin, les Chinois à droite, le Japonais à gauche, le Russe au milieu. Et tout ça, ils se bagarrent pour la Corée. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Et par conséquent, donc, si vous voulez, le principe, c'est de savoir qui va l'avoir. Les Russes, eux, ils descendent de l'extrême-orient. Les Japonais, ils montent de l'autre côté. Ben, c'est évident qu'ils vont se taper dessus. Alors, les Russes, très vite, apparaissent comme vraiment, disons, les empêcheurs pour les Japonais principaux. Donc, parce que les autres, sont beaucoup moins vindicatifs. Donc, il faut se débarrasser des Russes. Allez-y voir. Vous avez l'idée aussi, donc, des Japonais. Alors, deux choses. Les Japonais commencent aussi une tradition, sévère, qui va être importante pour la suite du point de vue militaire. Pour la première fois, quand ils attaquent la flotte de Port Arthur, donc c'est la base de la flotte principale, si vous voulez, en Asie, donc des Russes, ils attaquent sans déclarer la guerre. Donc ça va être une vieille habitude, hein, jusqu'à Pearl Harbor, etc. Donc sans déclarer la guerre, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'est dramatique, parce que les bateaux japonais arrivent en face de la base de Port Arthur. Les bateaux, à l'époque, je vous rappelle, ça marche au charbon, hein. Et quand ils sont à l'arrêt, on ne met pas du charbon dans les chaudières. Ça veut dire qu'il faut plusieurs heures pour faire monter la pression et que le bateau puisse partir. Vous imaginez, c'est du tir sur cible. Par conséquent, donc, à partir de là, ça a été, dès le départ, plutôt décisif. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le bateau que vous avez là. Vous voyez, c'est un petit, celui-là. C'est un torpilleur. Là aussi, c'est les Japonais, comme ils n'avaient pas forcément assez d'argent pour faire une grosse marine, par rapport aux gros cuirassés, croiseurs ou dreadnoughts des autres, et du coup, ils se sont dit, avec des torpilleurs, qui sont des petits trucs qui valent rien par rapport à ce que coûte un cuirassé, on fait une dizaine de torpilleurs. Le cuirassé nous les bombarde, il nous en flanque 5 ou 6 par terre, ou sous l'eau plus précisément, on s'en fiche parce que ça ne coûte rien, mais deux torpilles vont flanquer, lui, sous l'eau, le cuirassé. Et là, ça coûtera beaucoup plus cher. Et c'est la naissance, véritablement, du torpilleur, ou du moins de l'emploi moderne du torpilleur, dans la guerre, si vous voulez, navale, donc du XXe siècle. Ce qui veut dire que les Japonais, non seulement ils apprennent vite, non seulement, si vous voulez, ils arrivent à avoir ils ont une marine, une armée tout à fait efficace, mais en plus, ils modifient, ils inventent, et si vous voulez, ils perfectionnent absolument des armes. Alors nous, on prendra connaissance après, mais ça sera un peu tard. Les Russes, en tout cas, ils ne s'en remettront pas. Hein. Quand ils sont battus à Port Arthur, vous imaginez, c'est un défi, c'est énorme, c'est une baffe, quoi. Et donc, par conséquent, le tsar, il ne peut pas laisser passer ça. Il fait donc venir la marine, la grosse marine européenne qui est à Kronstadt, c'est-à-dire plus précisément à Saint-Pétersbourg, vous voyez, à peu près de la mer Baltique. Les Anglais, qui sont, n'aiment pas tellement les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur disent non, vous ne passez pas par le canal de Suez. Ce qui veut dire que les Russes, ils se tapent tout le tour, le cap de Bonne-Espérance, etc., et ils arrivent en face du Japon. Ils ont le choix d'aller à Vladivostok, parce que Port Arthur, c'est fini, ou bien, soit pour aller à Vladivostok, on part directement, c'est-à-dire pile entre le Japon et la Corée, ou alors on fait le tour, on a plus de place, mais c'est long, vous vous rendez compte, ça fait des mois qu'ils sont en train de se balader sur les mers, vous imaginez la vie à bord dans les bateaux à ce moment-là, c'est pas spécialement évident, donc ils disent, allez hop, on trace tout droit, c'est Tsushima, vous savez ce que ça donne en matière militaire maritime, vous avez la flotte russe qui avance en ligne, comme ça, les Japonais les attendent en face, mais eux, ils sont alignés perpendiculairement. Ça s'appelle barrel T. Et barrel T, les deux premiers bateaux, ils tirent, les autres, ils peuvent pas. Par contre, ceux d'en face, ils canardent tout ce qu'ils veulent. Résultat, c'est un désastre, et les trois quarts de la flotte russe sont soit sous l'eau, soit prisonniers. Ce qui fait que là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais on n'aurait imaginé que la flotte puisse partir à l'eau comme ça. Voyons voir la suivante. Il doit être à peu près, vous voyez, justement, les artilleurs japonais lors de la bataille de Tsushima. Vous voyez que les canons, c'est devenu quelque chose de relativement important et que maintenant ils savent y faire. Alors bien sûr, c'est toutes des estampes japonaises, on a encore la partie un peu traditionnelle, c'est assez rigolo. Allez-y voir. On termine avec ça. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous avez entendu parler du péril jaune? Le péril jaune, c'est pas les Chinois, hein. À l'époque, le péril jaune, c'est les Japonais. C'est-à-dire que là, vous rendez compte ce qui se passe? C'est que Tsushima, celui qui se fait battre pour la première fois de son histoire, c'est l'homme blanc. Le blanc qui a la puissance, bon d'accord, vous allez me dire, les Russes, ce n'est pas les plus puissants, mais on ne veut pas le savoir. En Asie, l'idée de se dire, vous rendez compte, un peuple jaune a réussi à écraser un peuple blanc, à le dominer à plate couture, dans l'armée de terre, dans l'armée de mer, dans les techniques, dans la stratégie, dans tout ce qu'on veut. Bon, ben, ça veut dire que le blanc, il n'est pas invincible. Ça veut dire que le blanc, finalement, c'est un homme comme les autres. Et on commence à se dire en Europe, vous voyez la vieille Europe avec l'archange, etc., qui montre l'Orient qui commence à brûler avec cette espèce de Bouddha qui est là-bas. Ben ça, c'est le péril jaune. Et honnêtement, tout le monde pense que le péril jaune à cette époque-là, c'est les Chinois. Non, les Chinois, on en fait ce qu'on veut. Donc par conséquent, ce n'est pas un problème. C'est les Japonais qui inquiètent. Et à partir de là, ben justement, il y a deux puissances qui commencent à se dire, les Japonais, il faudrait peut-être bien s'en méfier. Ben, d'abord, il y a les Anglais qui commencent à se dire, tiens, c'est quand même un peu particulier comme puissance, il faudra peut-être les surveiller d'un peu plus près, et puis surtout les États-Unis. Les États-Unis commencent à se dire, finalement, dans le Pacifique, il y a combien de puissances, véritablement, dans le Pacifique importantes ? Ben, les deux aux premières loges, c'est les Japonais et c'est les États-Unis. Donc les États-Unis qui viennent, rappelez-vous, de récupérer en 1898 les morceaux de ce qui restait de l'Empire espagnol, et donc qui viennent de récupérer les Philippines, qui viennent de récupérer les îles Hawaï, etc., ben, ils commencent à se dire, notre principal rival, c'est les Japonais. Et ils commencent franchement à trouver les Japonais assez insupportables. Ce qui fait que partir de là, c'est le début, ben, disons, d'une certaine animosité, qui évidemment va faire que croître et embellir. Pendant la Première Guerre mondiale notamment, vous rappelez-vous, les Japonais, ils vont avoir le du nez, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer dans la guerre. Avec qui? Avec nous, contre les Allemands. Pourquoi? Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire contre la guerre en 14? Ils se contentent de prendre les îles allemandes du Pacifique. Et c'est autant de colonies supplémentaires pour eux à la fin de la guerre. Ça veut dire autant de pions avancés dans le Pacifique. Alors là, les Américains font des bons, ça me paraît évident, bien qu'ils soient, en théorie, alliés. Bon, une dernière chose quand même, pour finir, le Japon a quand même gagné, bon, vous avez compris, il a gagné sa place, finalement, dans le concert des nations. Alors, il a gagné sa place économique, mais il a aussi gagné sa place militaire. Et le premier pays à le reconnaître, une fois de plus, c'est les Anglais. Les Anglais, vous rappelez, ils ont été les... deuxième, on va dire, à signer un traité inégal, à forcer les Japonais à signer un traité inégal. Eh bien, en 1899, les Anglais signent un autre traité par lequel ils reconnaissent que les Japonais sont dorénavant leurs égaux et que le traité inégal n'est plus de saison. Et ensuite, toutes les autres nations occidentales vont faire pareil. Et ça, la dernière qu'il fera, ça sera en 1911. Ce qui veut dire qu'en 1911, juste un an avant la mort, finalement, de l'empereur Meiji, eh bien, un an avant... le Japon a gagné sa place dans le concert des nations du point de vue militaire, dans le concert des nations du point de vue économique, et il est devenu un impérialiste à part entière, exactement comme les Français, les Anglais, etc. Donc c'est une histoire assez extraordinaire, parce que finalement, c'est le seul pays au monde, je vous le disais au départ, ne soit pas européen, et qui véritablement ait réussi à trouver en quelque sorte sa place au soleil, et à en être en quelques dizaines d'années, à peine, bon finalement, donc, si vous voulez, l'égal des Européens. Bon alors, l'égal, passons. Il est encore très rural, il y a encore une industrie qui n'est pas assez lourde, il y a la moitié des chemins de fer, si vous voulez, par rapport donc, à la France, etc. Mais peu importe, c'est le début est fait et on a vraiment un pays qui, disons, qui a complètement changé. Donc vous voyez, première époque, un pays déjà qui était assez surprenant. Deuxième époque, un pays qui est encore plus surprenant. Alors il reste la troisième époque, on verra la prochaine fois, la dernière surprise. Comment est-ce qu'on fait quand on a été atomisé pour essayer de s'en sortir? Ouais. Voilà, bon, on va s'arrêter là parce que je vous ai déjà pas mal avancé. Bien. Donc c'est toujours pareil, la fin c'est du lourd. Mais.
Bravo et merci et à la prochaine.
Voilà. Non, non, non. Oui. Non, parce que jusqu'à ce qu'ils avaient assez de place, leur territoire leur suffisait. À partir du moment où leur économie progresse, leur territoire...